Tout de suite et en direct, le libre journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h. Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel.
Et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la vigilance, bonsoir.
Comment on peut dire vigilant, ça marche?
Vigilant, oui. Mais, alors donc, je ne peux plus partir, oui. Je ne peux plus prendre de vacances. Alors, je m'en vais, on a un président de la République.
Vous avez vu ce qui s'est passé pendant les
vacances? Je reviens, ils l'ont coupé en deux.
Oui.
C'est ce qu'on disait à la fin de la guerre, quand les Allemands ont commencé à venir, à envoyer des plus jeunes, les plus petits en France. Les Français disaient, ça va mal pour eux, ils sont obligés de les couper en deux. Voilà, ben c'est ça, on avait un président de la République d'1m80, on a un président de la République de 90 cm.
On reste la moitié quand même.
Je sais pas, il nous coûtera peut-être moins cher.
Théoriquement, il devrait.
J'ai bien fait de ne pas rester d'ailleurs.
Ah bon, pourquoi?
Hein?
Pourquoi, maître?
Bon, c'est pour voter Sarkozy, c'est vraiment pas la peine de se fatiguer.
Tout le monde fait ça maintenant. Oui, c'est vrai.
Même les électeurs de Le Pen. J'ai pas encore compris comment ça s'est passé le coup. J'ai essayé d'analyser, mais ça échappe à mes.
Je crois que ça échappe à toutes les analyses.
Puissant. Enfin bon, on va en parler deux minutes quand même. Non? Vous trouvez ça normal, vous, Victoria?
Bah oui.
Bon, je crois que ça s'explique, non?
Non, je sais pas, non. Victoria Livrigno.
Non, c'est pas.
On pourrait prendre les explications de Jean Ferré, tout sauf la gauche, quoi. Voilà. Bon, mais.
Il y a cette explication-là.
Voilà, c'en est une.
Puis il y a l'autre aussi.
Il y a l'autre aussi, tout sauf la droite. En fait, tout sauf Sarkozy, parce qu'il y a des gens.
Ah oui, mais là, c'est raté, là.
Ah ouais, mais ceux qui se sont reportés sur Bérou.
Alors, autour de cette table, donc, Victoria, que vous avez entendu, je dis dans l'ordre des aiguilles d'une montre. François Robotte, notre chroniqueur gastronomique vedette, de plus en plus apprécié, puisque c'est vrai qu'il fait, il remplit les restaurants, les magasins.
Je remplis les estomacs et je.
Non, mais c'est écouté, et c'est, les auditeurs suivent, je crois qu'ils sont contents. Vous avez eu des remontées, François de,
j'ai eu des, oui, des excellentes remontées.
Des remontées, pas des renvois, quand même.
Non, ça c'est...
Des gens dont vous aviez parlé et qui vous ont dit qu'ils avaient eu la visite d'auditeurs de Radio Courtoisie, c'est bien. C'est signe que j'ai commencé à avoir la confiance de nos auditeurs. Et je m'en félicite. Et je ne m'en étonne pas. Jean-Pierre Rondeau.
Bonjour.
Je me suis trompé ni sur le prénom, ni sur le nom. Ça, je commence à m'y faire. Ça va?
Ça va bien. Oui, très bien.
J'ai vu que vous m'aviez transmis la lettre d'un ami qui m'a beaucoup plu. Il s'est présenté, il a demandé sa carte d'électeur et quand il a reçu, il s'est aperçu qu'il était né à Oran, entre parenthèses, Cambodge.
Ah ben, je vous en ai envoyé plusieurs parce que ça a été cette année ça a été l'explosion d'intelligence de l'administration française, puisque vous savez qu'on avait récupéré les 92 pour beaucoup d'entre nous sur nos papiers d'identité, mais que pour une raison à peu près incompréhensible, le 99 est souvent revenu. Mais cette fois, il a été accompagné de bizarreries. Donc, il y a Oran dans les Hauts-de-Seine, il y a Oran au Cambodge, il y a Oran dans un pays inconnu. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Je vous ai fait quelques copies et je pense envoyer. J'espère que la presse va s'y intéresser dans quelques temps quand la campagne sera calmée. Quoi.
Et alors, il y a Nui, Terzostal,
voilà,
Afrique. C'est où Nui? Moi, j'ai jamais entendu parler.
Nui, je sais pas. Je n'ai pas eu encore la curiosité de rechercher. Mais Nui n'existe pas.
Mais non,
donc, n'existe pas à ma connaissance en Algérie.
C'est un nom algérien. C'est un nom beaucoup porté par des Algériens.
C'est un nom de famille. J'ai cherché sur Internet.
Croyez pas qu'Oran Haute-Seine, c'est prémonitoire plutôt, non?
Oran Haute-Seine.
Haute-Seine, c'est prémonitoire.
Ah, c'est peut-être une.
Voilà, c'est l'anticipation.
C'est de l'anticipation.
Voilà. Et notre correspondant, un de nos correspondants à l'étranger, je ne sais plus dans quel dans quel pays où il votait, mais il a pu recenser donc non seulement les pieds noirs, mais aussi pas mal de nouveaux Français qui avaient eu les mêmes problèmes.
Bon, c'est bien. C'est le bordel qui commence. Je suis assez content.
Donc, il continue.
Oui, là, parce que les cartes étaient parties avant.
Dans ce domaine, il n'y a pas de rupture. Le marquis, vous avez entendu.
Bonsoir.
D'où, marquis?
De Montmartre, là, oui. J'ai gardé la maison pendant que vous étiez voluptueusement en vacances.
Ça, je dois dire que j'ai passé des vacances. On se demande vraiment ce qu'on fait à Paris. Hein.
De la radio.
Voilà.
Vous avez meilleure mine, je le dis aux auditeurs,
oui,
pas la radio en couleur.
Je suis sûr.
Et la chemise Vichy.
Ah bah,
ça, faut en parler.
C'est obligatoire maintenant.
C'est obligatoire.
Le 8 mai, j'ai porté du Vichy, bien entendu. Et je continue depuis. Non, c'est parce que j'ai une maladie de foie, donc.
Oui, il faut en voir, oui, bien sûr.
On m'a conseillé de réagir très rapidement.
À ce propos, j'ai un ami que vous connaissez qui est venu à votre micro, qui est un ancien pensionnaire du Français, à qui, hélas, on vient d'enlever un rein. Toute sa vie, il n'a bu que de l'eau minérale, et maintenant, il dit, je bois de l'eau mirénale.
C'est notre camarade.
Elle a fait d'eau, hélas.
Fédo.
Il n'a jamais bu une goutte de vin de sa vie. C'est quand même extravagant, et on lui enlève un rein.
Je dis merci parce qu'on m'apporte du thé, là. Merci.
C'est vraiment du thé, hein. C'est pas comme la reine mère d'Angleterre, c'est pas du gin dans une...
Avec une douzaine de messages, alors qu'on n'a pas encore terminé les présentations. Les auditeurs sont vraiment...
Les gens qui commencent à râler en disant, écoutez, vous nous... Et Goffman, que vous entendez. Pourquoi vous êtes fait une coupe bagnard?
C'est pour que le casque tienne.
D'abord, oui. Je dois porter le casque dès ce soir. Le quartier latin est en état de siège.
Je suis passé. J'ai vu que les flics disaient ça va chauffer ce soir. Ils demandaient aux commerçants de baisser leur vitrine. Si vous êtes dans le cas de baisser leur rideau de fer. Je savais que quand Sarkozy arriverait au pouvoir, il faudrait baisser le rideau de fer.
Tiens, une auditrice vous écrit tout de suite. Mm-hmm. Alexis Carrel, dans L'homme, c'est inconnu, a dit que les génies étaient toujours petits. Alors cessez vos plaisanteries lourdes sur la taille de Monsieur Sarkozy. Merci. Bah,
comment elle peut le savoir? J'ai rien dit encore. J'ai dit simplement qu'on avait coupé le président en deux.
Est-ce qu'il a dit que tous les petits étaient des génies?
Les génies étaient toujours petits. Nuance.
T'as pas de chance, Goff. Ouais.
Non.
Enfin, on avait remarqué que c'était pas un génie quand même, c'est pas. Non, mais il est d'une intelligence normale. Il a un QI de quoi 176. Moyen, quoi.
Il a quand même été assez malin pour piper plusieurs millions de voix à Jean-Marie Le Pen.
Non, je parle de vous, je parle pas de Sarkozy.
Un million, pas plusieurs. Bon.
1 million.
Exactement. Déjà pas mal.
Alors, justement, l'explication. Bon, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire tout de suite. C'est que vous imaginez, mettez-vous dans la scène. Alors, je vais donner la version actuelle, hein, et puis après, je vous donnerai la version. le président de la République, nouvellement élu, s'est rendu, après son élection, à Place de la Concorde, où il a fait un discours entouré de vedettes du show business, de comiques arabes, de rappeurs, d'autres comiques qui n'étaient pas arabes, mais on aurait pu s'y tromper, et de quelques chanteurs de rock and roll qui ne payent pas d'impôts.
Et quelques vieilles chanteuses.
Ensuite, il est allé finir la nuit dans une boîte de nuit sous le pont Alexandre III, une boîte de nuit très chic. Puis il a sauté dans un jet privé qui avait été mis à sa disposition pour gagner l'île de Malte, d'où il a embarqué dans l'avion de son ami le milliardaire Vincent Bolloré.
Vous avez oublié qu'avant ça, avant de se rendre et avant les résultats, il avait dîné
au Fouquet's
avec quelques people.
Il est parti le lendemain matin parce qu'il a passé la nuit au Fouquet's.
Et il a emmené dans son voyage Pomponnette, ce qui est tout à fait normal, et puis les enfants d'un premier lit de Pomponnette.
Ben oui, les fruits
de son croisement avec le Jacques Martin, comique de télévision. Maintenant, vous répétez cette phrase en remplaçant Nicolas Sarkozy par Général de Gaulle.
C'est impossible.
Voilà. Et vous voyez ce qui s'est passé depuis
le
début de la Ve République.
The times, they are changing.
Oui. Voilà, ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est qu'il ne faut quand même pas...
Le minou, il vaut rien.
J'ai vu quelqu'un qui a volé le minou.
Voilà, je mets mon obole dans la tirelire.
Voilà, c'est bien. Faites du bruit quand on croit que vous avez mis beaucoup d'argent alors qu'il met 5 centimes d'euros sur Rapia.
Ça, c'est un centime.
Il a versé.
Il y a autre chose qui est tout à fait intéressant dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est donc que j'avais remarqué qui m'avait beaucoup amusé, c'est le... Non, ça vient de m'échapper, à cause, c'est de votre faute.
Ah, voilà.
Vous avez rompu le fil de ma pensée. Mais il reste pas moins que quand même l'élection de M. Sarkozy constitue une véritable rupture avec le système. Ça, c'est sûr, on va le voir. Ah oui, il a pris des engagements, il a fait des promesses que j'ai listées, comme on dit en franglais.
Et, la tirelire est toujours...
Attends, on va perdre encore le fil de la pensée.
Et je pense que maintenant, on va jouer assez rapidement à un jeu très intéressant qui consistera à voir dans quel ordre il va trahir ses promesses. Mais quand on lit ces promesses, on s'aperçoit qu'elles sont... Elles n'ont pratiquement pas de sens. Je parlerai tout à l'heure des promesses sur la Turquie. La promesse sur la Turquie, ça ne tient pas debout. Mais voilà ce que je voulais dire aussi, c'est que je n'ai pas de sympathie pour lui, vraiment. Enfin, ni sympathie, ni antipathie, ne m'intéresse pas. Je suis quand même soulagé que ça ne soit pas Ségolène, parce que je crois réellement que c'est une psychopathe. C'est Pol Pot en jupon. Quand elle a annoncé dans son dernier entretien qu'il fallait scolariser les enfants à partir de 3 ans, là, j'ai commencé à avoir les cheveux qui se restent sur la tête, encore que je ne pense pas avoir des enfants de moins de 3 ans avant une autre existence. Mais j'ai des petits-enfants et j'espère avoir des arrière-petits-enfants. Et là, l'idée de voir, quand on sait ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui, ce que sont les fonctionnaires de l'éducation nationale, l'idée de leur confier mes enfants à 3 ans, là, il faudrait qu'ils viennent me les arracher avec des arrache-moyeux. Hein, parce que c'est pas possible de confier des enfants, des bambins, des bébés, des quasi-bébés, à des types il y a des gens pareils. Enfin,
c'est retirer totalement le rôle éducatif de la famille. Oui. L'État se doit de donner l'instruction, pas l'éducation.
Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est le jour où on a changé l'appellation. Voilà, parce que comme on est dans un système nominaliste,
c'est pas innocent.
Quand on change l'appellation, on change la réalité. Et ça s'appelait l'éducation, l'instruction publique. Bon, ça, on pouvait admettre l'instruction publique, ça voulait dire l'instruction qui était donnée au public.
Lire, écrire, voilà.
Par le système public, lire, écrire, compter, point, la ligne. Maintenant, on ne s'occupe plus de ça, on nous dit, ils arrivent en sixième, ils ne savent pas lire.
On ne leur apprend pas.
Oui, seulement ils savent qui était Pinochet.
Seulement, on leur explique que Pinochet était un salaud et que c'est le maréchal Pétain qui a inventé les chambres à gaz, évidemment.
Mais ils savent pas lire.
Et d'ailleurs, un ami qui est enseignant, professeur à domicile, me racontait qu'il a eu un jeune élève l'autre jour et il lui dit, tu vois, c'était au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et il voit un vague dans le regard de son élève, qui a 14 ans. Il lui dit, la Deuxième Guerre mondiale, ça te dit quelque chose quand même? Non. Non, monsieur. Tu sais pas ce que c'est que la Deuxième Guerre mondiale? 14 ans. Hein. Non, monsieur. Enfin, Hitler, les chambres à gaz. Ah oui, ça, oui.
Ah ben voilà.
Ah oui, ça, Hitler, les chambres à gaz, oui, je connais. Mais Deuxième Guerre mondiale, ils savaient pas ce que c'était. Donc là, il y a quand même un petit boulot de réécriture à faire, il me semble, de reformatage. Et confier à des gens qui ont donné ce résultat-là, avec un gosse de 14 ans, des enfants de 3 ans, moi je préfère les noyer dans un sac.
Mais de toute façon, Serge, en ce moment, ils y vont presque tous à 3 ans à l'école.
Mais ouais.
Comment non?
Oui, je dis oui.
Ah, bon, pardon.
Oui.
À 3 ans, t'as vous sauté dessus. Bah oui. Eh ben oui.
Bah ouais, dans beaucoup de...
Comment on peut vous mettre un enfant de 3 ans à l'école?
Ça, c'est mon avis. Je me demande la même chose que vous, mais c'est quand même la réalité. Mais
comme disait Coluche,
c'est pour les socialiser.
Ouais. Comme disait Coluche, ils ont des enfants parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des chiens.
C'est peut-être ça.
Mais de toute façon, la mesure qu'elle a proposée, c'était pas dans un but éducatif. À mon avis, c'était pour montrer qu'elle voulait permettre aux femmes d'être libres, d'être libres de travailler, etc. Ah oui, ça faisait pas partie d'un but éducatif.
On fond école et garderie, alors c'est pas la même chose.
Mais absolument. C'était...
Non, mais il y a quand même une chose dans son discours que, si j'ai bien compris, elle dit, il faudrait en fait organiser des systèmes de garde des enfants. Ouais. Pour que les femmes puissent mettre leurs enfants en garde et aller travailler. Et il faut, par exemple, avoir une exonération des salaires des nourrices à domicile, c'est ça, hein? Enfin, des gardes à domicile. Je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Si on dit à une mère de famille, au lieu d'aller travailler, vous allez rester chez vous, on va vous verser un salaire de la mère au foyer. Ils disent, non, c'est inadmissible, il n'est pas question de faire ça. Donc, en fait, imaginez le système, c'est la solution, c'est qu'une femme dise, ben moi je suis garde d'enfants à domicile, je vais travailler chez ma voisine est garde d'enfants à domicile, elle vient travailler chez moi, elle garde mes enfants, et donc comme ça, moi je paye pas d'impôts sur ce qu'elle me paye, et elle paye pas d'impôts sur ce que je la paye. Alors que ça serait quand même plus simple de leur donner un salaire.
Oui, mais c'est dans la même logique que le flic qui raccompagne le flic, quoi.
Oui, voilà. Exactement. Ça, j'avais entendu ça dans son discours,
dans son débat. Dans le débat.
Où elle disait, mais il faut des fonctionnaires pour accompagner les fonctionnaires. Je veux dire, nous, on a connu ça quand on avait 12 ans, 15 ans, quoi, comme tous les gosses. Et que, enfin, moi, j'étais en pension, j'ai pas connu, mais mes copains me disaient, ben, on se raccompagne le soir. Alors, tu me raccompagnes chez moi? Oui, je te raccompagne, t'es arrivé chez toi, tu
vois, c'est les policiers.
Accompagner les policiers. Vous aurez quelqu'un pour vous accompagner chez vous. Qui? Bah vous. Monsieur, ne m'attaquez pas, je suis accompagné par un policier. Je ne vois pas où il est. Bah c'est moi. Ah, dans ce cas, évidemment. Et on a, là aussi, il faut les couper en deux. C'est comme le président de la République. Alors, je disais donc que je prends beaucoup de sympathie pour Nicolas Sarkozy quand même, pour autant. Mais, je pense que c'est moins mal, on verra ça à l'usage.
On verra, oui. Moi, je suis pas...
Mais, ce que je trouve, alors, vraiment d'un grotesque achevé, c'est d'entendre les Ségos Hollande, qui sont milliardaires, qui sont bourrés de fric, qui suent le fric, littéralement. Lang, qui est pourri de fric. Strauss-Kahn, qui est pourri de blé, dont on sait d'ailleurs absolument pas d'où il vient, en tout cas on sait qu'il l'a pas volé, puisqu'il n'a pas été puni pour ça, dire que c'est un scandale que Sarko aille sur le yacht de monsieur...
Pendant 2 jours.
Alors comme me faisait remarquer Goffman tout à l'heure, il suffit d'avoir un pote qui a un bateau pour être invité, parce que pourquoi est-ce que les gens achètent un bateau? C'est pas pour s'amuser, il n'y a rien de plus emmerdant. C'est juste pour dire aux amis, j'ai un yacht, vous devriez venir passer le week-end. Bon, c'est pour ça que les villas, les piscines et les voiliers, c'est bien chez les copains. On est bon, d'accord. Mais d'autre part,
on peut modérer quand même ça, ce que vous dites, parce que d'abord, ce yacht, quand il n'est pas occupé, utilisé par son propriétaire, il est loué. Il est loué 150 000 euros la semaine. Donc ça, c'est un premier. Laissez-moi terminer. C'est un premier point. Je pense quand même que je pense qu'il y a déjà une petite anomalie quand on vient à longueur de programme, de pleurer sur les gens qui n'ont pas de travail, etc., d'avoir toutes les péripéties que vous racontez de cette journée avec depuis le Phuket, etc. La deuxième chose, c'est que Bolloré, pour moi, c'est un grand patron. Néanmoins, il est
catholique et breton.
C'est un grand patron.
Et français toujours.
Et donc, il a construit une belle entreprise, plus qu'une entreprise, parce qu'il en a construit beaucoup. Et c'est un grand patron qui intervient dans pas mal de choses, qui sont notamment le transport, le fret, etc., avec tout ce qui peut concerner l'Afrique, etc., et qui a aussi donc quelques pouvoirs dans la presse. Et je trouve que ça fait quand même... Enfin, c'est pas sain, quand même. Vous avez parlé de De Gaulle. Vous savez très bien que je suis un anti-gaulliste primaire. Néanmoins, De Gaulle aurait pas fait ça. Et je pense que c'est pas... c'est pas sain. Quoi.
Attendez. D'abord, première remarque. Vous voulez dire quelque chose?
Non, je vous en prie, Serge. Après.
Oui, moi aussi.
Je me doute que tout le monde a quelque chose derrière.
On va tous dire quelque chose.
Première remarque.
À la suite.
Quelle est la différence entre Sarko, qui va sur le voilier de Bolloré, et ça provoque pour deux jours, et ça provoque un scandale, et Chirac, qui a l'aplomb d'aller se loger au Quai Voltaire chez le fils de Trafic Hariri, son ami qui lui a graissé la patte jusqu'à sous les bras pendant des années, son défunt ami libanais. C'est là tout le monde trouve ça
c'est pas moi.
Ça n'a rien d'extraordinaire, quoi, c'est normal. Comment Chirac, il a été au pouvoir pendant combien
12 ans.
12 ans. Il n'avait pas prévu qu'un jour il aurait besoin d'un appartement sortir et tout. Non, mais il se fout de la gueule du monde, carrément. Et il va se
loger. Il a donné le sien à sa fille, vous le savez bien.
Heureusement que j'ai des mouchoirs. Non, mais.
Il a un tout petit peu.
Tout ça est d'une hypocrisie formidable. Alors, j'ai, pour le prochain numéro du Libre Journal qui sort demain, j'ai préparé un petit peu un petit sketch d'imagination. J'imagine que Hollande téléphone à son ami Marcel. Pour lui dire, dis donc Marcel, je te téléphone, tu vois ce qui nous arrive, c'est François au téléphone. Marcel lui dit, François, quoi les François? Mais moi je mets un coup de pied dans un platane, il en tombe 12, des François, lequel? François, l'ami à Sego. Oh, Fromajou! Le culbuto, comment tu vas? Oh, dis donc, ta grosse, elle a fait un malheur aux élections. Ah, c'est bien, non? Elle doit te crever, tu parles, elle est née dans la luzerne, elle est épuisée, elle n'est pas de casser. Il faut que je l'emmène à la campagne pour la mettre au vert un petit peu. Ah, t'as bien raison, oui. Dis donc, je t'appelle, tu l'as toujours, la nénette? La nénette? Tu veux dire, la Riviera Gran Turismo qu'on avait acheté avec Gisèle, il y a 20 ans pour aller en vacances au camping des Flots Bleus à Berck-Plage? Oui, je l'ai toujours. Je dis, tu peux pas me la prêter? T'as une boule? Non, je veux pas les boules, c'est Sarko qui a les boules. Non, une boule. Ah ouais, j'ai une boule, oui. Tu veux dire à la Peugeot? Oui, bien sûr, j'ai une boule. L'autre jour, j'ai été obligé d'acheter une boule parce qu'on a mis une boule pour tirer la remorque. On a fait le déménagement à la mer de Sego. Même que son père, en chargeant le buffet Henri III, il s'est fait un limbago. Alors, dis donc, tu l'auras entendu brailler. Enfin, bon, tout ça, c'est du passé. Maintenant qu'on est président. Ah ouais, dis donc, t'es président. Enfin, t'es président consort. Oui, c'est ça, je suis président consort. Mais tu peux me la prêter, la nette? Bien sûr, y a pas de problème. Elle est au bout du jardin, tu viens la chercher. Elle est un peu poussiéreuse, tu mets un coup de geste, ça ira très bien. Voilà. Alors ça serait acceptable, quoi.
Vous avez répété, là, ou pas?
Non, j'improvise. Et il lui dit, dis donc, simplement, t'en parles pas à la presse, parce qu'on va dire que tu m'as graissé la patte. Non, je ne le dirai à personne. Tiens, à propos de graisser, tu penseras à graisser un peu les amortisseurs, parce que j'ai remarqué que la nuit, ils ont tendance à grincer. Ah ben dis donc, Marcel, tu parles de la présidente de la France, là, tu pourrais te tenir un petit peu, pour être poli, bordel. Oui, oh ben, excuse-moi, si on peut plus rigoler, alors, voilà. Alors là, on sait pas plus l'eau, c'est normal, c'est toute personne verrait un inconvénient à ce que Marcel prête la nénette à Sego.
Dans cette histoire, il y a juste une chose qui est pas, moi, je m'en fous qu'il soit allé sur un bateau, tout ça, pourquoi pas. Je trouve que c'est simplement une maladresse. Il se serait fait péter une maison de campagne par un copain en Normandie, personne n'aurait rien
dit. Il aurait eu tous les
Et, oui, d'accord, attendez, laissez-moi finir, je vais faire comme notre ami Rondeau. Tandis que là, bon, effectivement, il a mis la mer entre lui et les paparazzi, et ben en plus, bon, je trouve que alors, il aurait dû rester en France. Mais c'est, pour moi, le vrai problème, c'est pas la peine de payer des mecs en communication des fortunes pour qu'il n'y en ait pas un qui lui ait dit, écoutez, quand même, une fois que vous serez installé, vous prendrez quelques jours de vacances, et là, vous pourrez. Mais entre les deux tours... Restez au moins en France, n'allez pas à Malte ou ailleurs. Je trouve que c'est une sottise. Et j'en profite pour dire que j'ai toujours pensé qu'un président de la République française élu, et maintenant pour 5 ans, ses vacances officielles, ses congés payés, il devrait les prendre en France en changeant de région à chaque fois. Ça ne fait jamais que 5 fois. Ça, les vacances de président de la République à l'île Maurice et tout ça, c'est sujet à caution, c'est idiot et ça pose des problèmes. Et là, il commence mal. Mais cela dit, moi, sur le fond, qu'il soit sur un yacht, ça me va plutôt bien.
Surtout qu'on peut espérer qu'il va couler en plus.
Oh. Il est rentré.
Mais enfin, vous n'allez pas le faire dans le misérabilisme ici, quand même.
Pourquoi ?
Mais pourquoi il n'est pas encore en fonction de président de la République ?
Ben oui, mais si,
quand vous parliez de De Gaulle tout à l'heure, il était président de la République. Oui. Mais là, il n'y est pas encore. Pourquoi il ne peut pas se faire inviter par un copain ?
Même mais bien si sûr qu'il peut, mais allez expliquer ça aux gens qui ne le comprennent pas.
Mais les gens... Alors écoutez, je vais vous dire ce que j'ai entendu. Moi, plus ça allait, pire c'était. Ce matin, il y avait Catherine Ney qui disait quand même... Écoutez, vous n'alliez... Elle était très bien, mais elle a dit à la fin... Oh, vous n'allez tout de même pas lui demander d'aller prendre une semaine en location à Pierre et Vacances en Bretagne.
Mais pourquoi ?
Attendez, moi, ça a continué. Il y a une bonne femme qui intervenait à midi à la télé et qui a dit... il faut... Comment on a tourné ça ? Oui, c'est honteux. Parce qu'il y a des gens...
C'est honteux, on dit d'ailleurs.
Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de vacances. Eh bien, il n'aurait pas dû en prendre. Conclusion pratique, plus personne prend de vacances.
Mais alors, moi, il faut s'élégaliser dans une tente le long de la...
Et moi, j'avais envie d'envoyer Sarkozy. Vous savez, à un moment, Laurent Gérard, c'était à Lou Caravanou qui l'envoyait régulièrement.
Comment il s'appelle ? Mais on est dans un pays de jaloux. Bah, les gens sont jaloux.
Voilà. Non, c'est pas de la jalousie. Moi, je pense quand on a certaines fonctions, il vient de les avoir.
Non, c'est une erreur quand de communication. C'est évident.
Quand on a certaines fonctions, il y a des choses auxquelles on peut pas prêter. Et là, dans ce cas-là, il est avec quelqu'un qui a besoin à certains moments du gouvernement, de l'État, pour obtenir des autorisations, pour obtenir des choses. Et je pense pas que ça soit le cas de Bolloré. Je vous ai dit que c'est un grand monsieur.
Oui.
Mais je pense qu'on prête pas le flanc. On se fait pas faire un cadeau de 150 000 euros. On se fait pas faire un cadeau de 150 000 euros parce que c'est un cadeau de 150 000 euros. Ce yacht, il est loué quand il est pas. Et ben, on se fait pas faire un cadeau à ce prix-là quand on vient d'hériter de cette fonction-là. C'est tout. Voilà.
Je pense que c'est Pompidou disant à Chirac, on n'achète pas un château.
Pompidou l'aurait pas fait, je pense.
C'est Pompidou disant à Chirac, non, on n'achète pas un château quand on veut faire de la politique. On l'a deux familles avant. Moyennant quoi, Pompidou, la première fois qu'il est venu à l'Élysée officiellement, il est arrivé avec sa Porsche personnelle. Ça a été mal vu aussi.
Mais bon, tout est mal vu.
Bah voilà, c'est ça le problème. Bah
il était combien le cadeau de le diamant de Bocassa, de Giscard d'Estaing ? Il valait combien le diamant de...
Un jour, quand j'étais en vacances à Bagneux, de l'émission et un lecteur du Libre Journal qui est arrivé avec un petit Zodiac, il m'a dit « Vous voulez faire un tour ?» J'ai dit « Oui ». Ils m'ont emmené, on a fait le tour de la baie de Bagnols avec son petit Zodiac, on s'est bien amusé. Personne m'a rien dit et tout. Mais enfin, j'ai quand même été puni parce qu'en descendant, j'ai fait tomber mon téléphone portable dans l'eau, ça m'a coûté 150 euros. Mais n'empêche que c'était bien. Non, mais il faut dire, on a été discret, j'avais pas prévenu la presse.
Mais lui non plus. Photo, ni en rien. Plus, il a essayé de se tirer.
Sarko et Sergio sont dans un bateau.
Oh, non,
bon, voilà, je constate que naturellement, comme par hasard, Victoria prend la défense de Sarko.
Ouais, bah
moi, je n'ai pas voté pour lui.
Moi aussi, je voudrais abonder, comme d'habitude d'ailleurs, dans le sens de Victoria, apporter de l'eau à son moulin. Parce que je pense, et je suis désolé de contredire un de mes meilleurs amis, je pense que c'est de l'excellente communication, au contraire. Je voudrais faire remarquer que les émeutes, dont les jeunes socialistes encore constitués sont allés allumer la mèche Place de la Bastille, pas plus tard que dimanche soir, avant de se débiner dès qu'il a commencé à faire un peu trop chaud pour leurs fesses molles, ces émeutes ont commencé avant que Sarkozy ait eu le temps de mettre sa serviette, de nouer sa serviette autour de son cou au Fouquet's. Alors peut-être que dans 5 ans, s'il est réélu, il ira fêter ça, selon votre souhait, au Balto de Gennevilliers, avant de prendre avec son copain Nanar, qui est tellement plus sympathique et plus marrant que Bolloré. Et moi, je dis que les patrons... J'ai fait de l'ouvriérisme par profession pendant 12 ans, alors j'en suis un peu fatigué maintenant. Et je dis que les patrons, les bons patrons catholiques et bretons comme Bolloré, ils ont peut-être encore une petite place dans cette société. Ou bien vous allez m'annoncer que la révolution bolchevique est pour demain. Ça fait si longtemps qu'elle est pour demain que ça serait une excellente nouvelle qu'elle soit enfin pour demain. Alors que le président de la République accepte un pareil cadeau, moi ça me gêne d'autant moins. Je vais... un mot personnel, comme tout le monde l'a fait à son tour, que moi qui ai été si souvent du mal à payer mon loyer l'année dernière, et je crois que j'étais pas seul autour de cette table, j'ai accepté un déjeuner chez Apicius, pourquoi ne pas le nommer, le restaurant le plus cher de Paris, dont le coût, dont le montant équivalait précisément à mon loyer. Je suis allé en croisière sur des yachts, pas des yachts de 60 mètres, je l'avoue, parce que moi, je suis pas copain avec Bolloré, mais avec quelques-uns de ses cadres. Je suis allé en croisière 15 ou 20 fois sur des yachts. En quoi ça m'a compromis? En quoi c'est mal? Moi, je trouve ça formidable. Ah,
c'est un compromis. Il était trotskiste, il est devenu d'extrême droite. Ouais, voilà le résultat pour un voyage en yacht.
En plus, il a son côté stalinien qui reste, parce que... Et qu'est-ce qu'on a dit sur Bolloré? J'ai dit que c'était un grand patron et que je le mettais pas en cause.
Ben, je constate que personne n'a compris ce que j'expliquais. C'est que je trouve tout à fait normal qu'il fasse ce qu'il a fait et que les journalistes qui l'emmerdent sont des voyous et des hypocrites.
Voilà,
et
c'est ça, pour être clair. Voilà.
Voilà. Bon, ben, quoi d'autre? Alors, qui sera? C'est Fillon qui va être Premier ministre?
Ça se dit.
Non, moi, ce que j'ai remarqué aussi, quand même, c'est que on nous annonçait la rupture et les premières images qu'on a vues de type arrivant pour la soirée électorale, c'était Juppé, suité de comment il s'appelait celui dont j'ai oublié le nom, là, du Poitou?
Raffarin.
Quand j'ai vu arriver Juppé et Raffarin, j'ai dit, mon vieux, pour la rupture, il faudra repasser dans 5 ans.
C'est peut-être pour inviter, c'est des hirondelles.
Ah, oui.
Mais on ne sait pas encore, enfin, il va peut-être prendre rien que des genoux. Puis il prend autant de petites dames que de messieurs, alors. Ça va pas être nouveau, ça va être extraordinaire.
Il y a déjà eu des femmes au gouvernement.
Moi, j'ai un auditeur là qui nous dit, il faut quand même espérer. Je suis persuadée que Sarkozy devra faire face à un barrage. On n'entend plus que Royal, Hollande sur les radios. Même avec un fort caractère, il ne pourra rien faire. En plus, les syndicats sont contre lui. Ils ont même commencé à faire la grève de tous les côtés, là. Bon, eh ben, il faut quand même espérer, nous dit cet auditeur.
Ah bon,
alors, allez pas lui mettre en plus des bâtons dans les roues.
Mais pourquoi?
En disant que c'est un gros vilain.
J'ai pas dit ça.
Personne n'a dit ça.
Non, mais franchement, je comprends pas.
Il y a sûrement des griefs contre Sarkozy, des griefs fondés. Alors pourquoi adopter ce que la gauche lui invente, lui contrôle?
Mais on est d'accord.
Par exemple, que demain, il va... Peut-être que demain, il va aller faire repentance avec Chirac. Moi, ça, j'attends ça avec horreur.
Est-ce que tu peux penser que j'ai ma propre opinion et que je ne l'ai pas prise à gauche?
Bien entendu.
Donc, c'est mon opinion.
Je constate qu'elle recoupe une campagne de presse absolument d'une démagogie.
Moi, voilà comment je le ressens, c'est tout, point.
C'est mon avis et je le partage, dit-il.
Je suis tellement persuadé que tu peux avoir ton propre point de vue que je m'afflige de le voir recouper une campagne de presse lamentable de la gauche.
Moi, je suis comme Bayrou, je vote avec la gauche quand je pense que c'est bien et je vote avec la droite quand je pense que c'est bien.
Il y a encore un qui va se ramasser gentiment aux prochaines
je
élections.
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que avant la fin de cette émission, à partir de 20h, commencera Esplanade de l'Observatoire en métro Port-Royal à Paris.
RER Port-Royal.
RER Port-Royal. La manifestation désormais traditionnelle en l'hommage à Sébastien et Julien.
Sébastien Desieux et Julien Quémeneur.
Voilà. Quand l'âme se souvient, la femme se maintient. Honneur et fidélité. Tenue correcte et attitude discrète exigée. Nous disent les organisateurs de cette manifestation en l'honneur de ces deux militants nationalistes.
Je peux ajouter un mot sur ce point, Serge. Ben, j'ai dit tout à l'heure que le quartier latin était en état de siège, et la raison en est que nos amis anarchistes, jeunes, opprimés de banlieue et compagnie, avec le MJS les jeunes socialo-LAUD qui leur soufflent quelque part, qui sont sur le pont depuis dimanche soir, ont juré que notre manifestation en mémoire de Sébastien Desieux et Julien Kemner n'aurait pas lieu. Moi, je vais partir. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que je vais partir à la coupure technique à 7h30. Je lance un appel à nos jeunes qui seraient fatigués des mangas et des feuilletons japonais pour qu'ils se secouent et qu'ils nous rejoignent. Donc, l'esplanade.
Rejoins tes camarades.
Voilà, rejoins des camarades sous le signe Sébastien et Julien, tu vaincras. Rejoins-nous, jeunes. Esplanade de l'Observatoire à 20h ce soir même. S'il se passe quelque chose d'extraordinaire, je téléphonerai. Serge et nos auditeurs seront mis au courant tout de suite.
Et les vieux,
vous rappelez ce qu'il y a ce soir? Vous êtes gentils. Ça y est, je me pose.
Mais je suis d'accord pour qu'on le dise une troisième fois si Serge le permet.
Mais oui, parce qu'il me redemande tout le temps.
Oui. Alors oui, donc auditeurs, auditrices, prêtez-nous attention et ne téléphonez pas. Ce soir, marche traditionnelle, je crois que c'est le 10e anniversaire de la mort de Sébastien Desieux, qui a été tué au cours d'une poursuite extrêmement violente avec la police il y a 10 ans, donc alors qu'il manifestait contre l'impérialisme américain avec ses camarades. Et on y a joint le souvenir de Julien Kemener qui a été assassiné devant le Parc des Princes par un policier antillais qui était sous le coup d'un procès pour escroquerie. Donc ce soir à 20h, ce soir 9 mai à 20h, à l'esplanade de l'Observatoire qui est juste en face du métro Port-Royal.
Voilà. Je vous signale également une information très intéressante qui est parue dans le Figaro. Un prêcheur turinois s'en prenait dans ses exhortations aux catholiques, aux juifs et aux femmes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Un imam turinois. Déjà, ça paraît bizarre. Mohamed Kouaïla professe en chair la défiance du catholique et du juif. Ne fréquentez aucun étranger à l'islam, ne faites aucun compromis avec les athées, il faut les tuer, un point, c'est tôt. Il a dit.
C'est clair,
moi.
Ça me paraît illogique.
Les femmes sont inférieures à l'homme, soumettez-les, n'hésitez pas à les battre, elles fileront droit.
Encore un cas du Goffman, hein. J'aurais aimé entendre en italien avec l'accent.
On peut les dire en italien aussi, mais ça va, c'est moins bien, parce que si on dit, elles sont inférieures à l'homme, soumettez-les, n'hésitez pas à les battre, elles vous rendront immédiatement une paire de baffes. Ça va pas du tout, non.
Ça fait mexicain. Hein?
Alors, voilà.
J'avoue, c'est moi qui ai inspiré le Coran.
C'est le Figaro qui écrit, hein, pas moi, hein. Mais je veux dire la suite, attendez, parce que c'est pas fini, je dis pas ça juste pour m'amuser.
Non, c'est amusant quand même.
Écoutez, des actes d'intolérance, j'appelle ça des actes d'intolérance, dont les femmes d'immigrés sont les premières victimes. Swab Sbahi, alors qui est une Marocaine qui fait de l'intégration des immigrés en Italie le combat de toute sa vie, elle ferait mieux de faire le combat des immigrés, de l'intégration des immigrés dans le pays d'émigration, ça serait mieux, mais enfin bref, elle fait comme elle veut. Alors, en site des disettes, ça va du mari installé à Vérone, les amants de Vérone, bien entendu, hein, qui fracasse la mâchoire de sa femme sans raison apparente. S'il avait une raison encore, hein.
Si tu sais pas pourquoi tu l'as là-bas, elle le sait.
Il faut lire les papiers. Quand on les lit comme ça, il y a des moments de grandiose rigolade.
Oui, parce qu'il faut les lire tranquillement. Oui,
cela va du mari installé à Vérone, qui fracasse la mémoire de sa femme sans raison apparente.
C'est
nouille. Bon, je me suis dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Moi, j'ai une raison. Bah, elle n'est pas apparente. Ah ben si, regardez sa gueule maintenant, elle est apparente. Alors, que le juge relaxe au prétexte que cela fait partie de leurs habitudes culturelles.
Oh, c'est ça. Oh là là là.
Bah, ça fait partie des habitudes culturelles. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? On ne lutte pas contre la culture. C'est un homme extrêmement cultivé. Et au médecin syrien qui conseille à ses patients d'avoir plusieurs femmes parce que ça fait du bien à la prostate.
C'est vrai, ça.
Non, mais j'invente rien. Et c'est pas dans un feuillet raciste, c'est pas dans une feuille raciste du genre Libre Journal. Non, c'est dans le Figaro. Ouais. Le Figaro du 3-4-7. Ça n'a même pas compté. En passant par des mariages arrangés dès le plus jeune âge, alors, qu'est-ce que c'est le plus jeune âge, je ne sais pas, ou des imams qui célèbrent en douce des unions polygames en infraction avec la loi italienne, et d'innombrables cas de séquestration de femmes et de filles à la maison. Comment ne pas être révolté, s'indigne Souad Spahi, qui préside la communauté marocaine d'Italie et dirige des publications destinées à faciliter l'intégration des immigrés. Voilà, c'est évident, c'est facile de les intégrer. Elle part en guerre contre l'hypocrisie de la gauche. Elle se remplit, alors elle parle de la gauche, donc elle se remplit de la bouche de multiculturalisme, c'est que ça va, de respect des diversités culturelles, sans chercher à dénoncer les pressions et les violences auxquelles les femmes d'immigrés musulmans sont soumises. Et Souad poursuit, de nombreuses Marocaines sont contraintes de porter le voile, parce que, non pas parce qu'elles ont les yeux au beurre noir ou la mâchoire fracassée, mais parce que l'imam a dit à leur mari qu'il n'était pas un homme si la femme s'y refusait. Elles restent analphabètes comme leurs pieds. Non, analphabètes, c'est tout. Alors qu'au Maroc, fait-elle valoir, le voile n'est pas obligatoire et le taux d'analphabétisme a régressé de 80 à 35% en 7 ans parmi les femmes grâce à de nouvelles lois sur la famille. Autrement dit, immigrés, pour arrêter de vous friter, rentrez au pays. Et ben voilà.
Il y a un statut des femmes au Maroc et en Algérie, en effet, comme il y est fait allusion.
Et en Tunisie.
Et en Tunisie, en premier lieu, au terme duquel les femmes sont les égales de l'homme. Il faut qu'elles viennent en France pour leur devenir inférieures.
Ou en Italie.
Vous imaginez, le type, il emmène sa femme en vacances
en Tunisie,
et puis elle fait une bêtise. Il dit, attends, tu vois, quand on va rentrer en France, tu vas la branler, que je vais faire.
Voilà, et sur place, il reste tranquille.
Non, le droit algérien, en tout cas, laisse une différence forte, y compris en matière de droit de
succession. Je blague, mais comment on peut tolérer des choses pareilles?
Ah, oui, c'est ça,
et puis... Là-dessus, Sarkozy fait son discours. Je vais encore dire du mal de Sarkozy, ça vous gêne, Victoria?
Je tends l'oreille, je ne lis plus les messages.
Sarkozy nous dit, enfin il a dit ça devant la merveille et 2000 bonnes femmes réunies à la mutualité. À partir de dorénavant, et ceci jusqu'à désormais inclus, toute femme battue sera considérée comme une citoyenne française.
Ça fait du monde.
Alors, attendez, non mais...
Cécilia est française.
C'est extraordinaire parce que vous imaginez la Tunisienne qui prend une mandale, paf, une baffe.
Oui.
Bon, si c'est comme ça, je m'en vais en France. Je demande la citoyenneté française. Ouais, lui dit son mari, va, tu vois, quand on sera en France. Putain, c'est pas une claque que je vais te mettre, je te casse la gueule des dents.
Parce que
c'est ça le truc. Ils peuvent, ou en Italie, pareil. Hein, ils sont plus tranquilles en France pour tabasser, pour exercer... librement les aspects multiculturalistes de leur culture.
Que chez eux, dans l'opinion.
Donc, qu'est-ce qu'il fait Sarkozy là? Il emmène ces bonnes femmes en enfer directement, en disant vous prenez juste une claque quand vous êtes tunisienne, mais vous allez voir quand vous êtes française, vous allez carrément vous faire casser la mâchoire.
Oui, mais c'est en française.
Alors, tout ça est d'une logique, je ne vous dis pas. Ah, il y a peut-être une explication. C'est notre ami Jalon du Québec qui nous écoute au Québec.
Sur radiocourtoisie.net, radio. C'est bien ça.
Je ne sais pas.
Oui, radiocourtoisie.net. Dans le monde entier.
Et qui nous dit, le président de la République française est un homme prudent. Sur un yacht, il peut surveiller Pomponnette en permanence.
Il y a l'équipage quand même.
Hein? C'est peut-être un équipage de femmes, ou de nuques, on ne sait pas. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On ne peut pas trop parler parce qu'on n'a pas le gouvernement. Vous n'avez pas d'informations. Vous n'y êtes pas, vous.
Si, attendez, pas au gouvernement, mais j'ai des informations. Concomitamment, je viens d'entendre...
Oui.
C'est un début de message. Concomitamment, je viens d'entendre sur Europe 1... que la fac de Tolbiac vient de voter la fermeture de l'université et qu'ils appellent leurs collègues pour que ce soit partout comme ça en France. Voilà.
L'UNEF n'est pas d'accord.
De toute façon, ça rend service à qui comme les émeutes.
De toute façon, ils foutent rien quand ils sont à l'université.
Ça va rendre service à l'UMP.
Cher Serge de Bekech. Sachez voir quelquefois le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'admire les quelques people qui se sont affichés avec Nicolas Sarkozy dimanche dernier à la Concorde. En effet, les radios anarchistes d'extrême gauche ont abreuvé de haine et de menaces ces personnalités. Par exemple, ils ont surnommé le chanteur Beurre Faudel, Fauderche ou bien Arki Koki. C'est gentil ça. Et rien que pour ça, je les admire tous les deux, Sarkozy et Faudel.
Et moi j'admire Henri Comas, yes.
Et Mireille, pauvre Mireille Mathieu.
Oh, bon, Mireille est intouchable. Mireille, c'est une icône
complètement icône.
C'est là qu'on a vu qu'on avait ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on parlait, quand on parlait de Le Pen, on voit qu'ils avaient rajeuni les cadres là, parce que quand Mireille Mathieu est venue, qu'elle a essayé de faire chanter tout le monde en chœur. C'est pas qu'ils voulaient pas chanter avec elle, mais ils savaient pas. Les chansons qu'elle avait remontaient au déluge.
Mais c'est parce qu'elle chantait sous le général de Gaulle, déjà.
Ah, mais c'est il y a longtemps, déjà. On voit pas le temps passer.
Vous connaissez l'histoire de Mireille? Elle passait dans une émission, elle était interviewée sur Europe 1, et à l'époque, elle avait un manager qui s'appelait comment? Johnny Stark.
Johnny Stark, qui avait été celui de
Johnny. Et déjà, Johnny Stark était... comment dirais-je, un personnage qui était très, très directif, quoi. Alors, il lui avait fait répéter les réponses et tout, et il lui avait en gros prévu les questions. Et donc, il était derrière la glace du studio, et il faisait des gestes quand elle hésitait. Le journaliste dit à Mireille, et quel est l'homme politique que vous admirez le plus? Alors, il avait prévu qu'elle répondrait, il savait que cette question serait posée, il avait prévu qu'elle répondrait Napoléon. Elle répond Napoléon, et en même temps, lui, il fait le chapeau. Pour Napoléon, il fait comme ça, autour de la tête. Et alors, le journaliste continue et pose une question qui n'était pas prévue. Il dit, et pourquoi? Et alors là, elle est affolée, parce qu'elle n'a aucune réponse à donner. Elle lève les yeux et elle voit Stark qui fait le geste du chapeau, et elle dit, parce qu'il avait la grosse tête. Ça fait penser à Sylvie Vartan, à M. Sylvie Vartan, qui avait dit aussi... quand elle était rentrée de voyage de noces, on est allé avec Johnny, on est allé en voyage de noces aux Bahamas. Et alors le gars lui dit, qu'est-ce que vous rapportez comme souvenir de la Dior? C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a des couchers de soleil vraiment splendides, surtout le soir. Voilà. Elle n'était pas Sylvie Vartan au truc de Sarko?
Mais non, elle vit à Los Angeles, elle n'est pas venue sur ça. Oui.
Comme moi.
Vous vous souvenez de Philippe Bouvard demandant à Georgette Lemaire si elle était intéressée par les tables des Logarithmes et qu'elle a répondu, si ça va avec les rideaux de mon salon, je vais en mettre dans mon salon, les tables des Logarithmes.
Bon, donc, c'est un peu facile, parce que franchement, je ne sais pas non plus ce que c'est que les tables de Logarithmes.
Oui, moi je sais que c'est un truc de mathématiques.
Oui, voilà, mais enfin, sorti de là. Voilà, bien, d'autres questions d'un haut intérêt politique, Victoria?
Non, pas trop. Non. Enfin, il y a des commentaires, il y a des choses diverses. Alors là, je comprends rien. Alors comme ça, je vais vous le lire, vous allez m'expliquer. Hier, sur France Inter, au journal de 23h, il a été dit, le 8 mai, c'est la capitulation de l'Allemagne nazie, mais c'est aussi le massacre de Sétif.
Oui.
Voilà, très bien. Et puis alors, ça c'est pour moi, si Ségolène avait été élue, n'y aurait-il pas eu aussi la cérémonie de repentance pour la traite atlantique?
Oui, c'est parce que j'ai remarqué une chose, ça m'a frappé d'ailleurs, c'est que Sarkozy, il a trouvé que c'était pas du tout utile qu'il soit là pour le 8 mai, qui est quand même la célébration des combattants de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont tombés sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu comme le 11 novembre, c'est le souvenir des combattants de la Grande Guerre. Donc ça, il s'est pas dérangé. Mais le 10 mai...
Il a laissé chichi, quoi.
C'est,
Il a laissé chichi tranquille,
oui, d'accord, oui, ok, mais non, mais je ne reproche pas. C'est très bien, il n'était pas obligé de venir. Et pourquoi il vient le 10 mai quand c'est la fête
de l'abolition
de l'esclavage?
Parce qu'il paraît que l'autre l'a pris au collet et qu'il, de loin, comme ça, avec ses grands bras, il l'a pris au collet, il l'a obligé à venir.
Non, moi je ne crois pas que ce soit ça.
C'est pour donner un signe, évidemment.
Il n'en a rien à foutre des blancs vivants, tandis que des blancs morts, tandis que les blancs vivants, ça se vote toujours, c'est tout.
Bien sûr.
C'est ça, c'est non, j'aime pas. Voilà.
Moi j'attends de voir comment il va présenter ça demain. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, l'auditrice?
Il va l'emmener en bateau.
Si vous...
Oh là là. Ça s'appelle un blanc.
Je vous écris. Si vous voulez un troisième film sur les bronzés, qui pourrait s'appeler « Les bronzés vont à la messe », il faut regarder Le jour du Seigneur à 11h le dimanche matin. Dimanche dernier, c'était un délire de bravo, de sauterie, de branlère, avec musique à l'appui. On se demande si on avait le temps de dire une prière au Seigneur. Voilà, ça c'est les bronzés.
Oui, mais ça c'est... Normal, les Africains, ils prient avec leur corps, nous on prie avec nos têtes. C'est une question culturelle, ça.
À chacun selon ses moyens.
Ouais. Bon, et alors, un auditeur vous dit, Jean-Marie Le Pen et le Front National ont eu aussi leur rôle. Faudrait peut-être en parler.
Mais je voulais éviter la question, mais puisqu'il faut en parler, ben, parlons-en, oui. Il faut quand même reconnaître que cette campagne... Moi, mon avis, je donne mon avis, puis après, vous, les autres diront ce qu'ils pensent. Je pense que Le Pen a fait sa meilleure campagne depuis pratiquement, enfin, 20 ans, 25 ans. Elle a été magnifique. Il a été éblouissant, il a fait des discours admirables. Il avait une forme olympique, il était beau comme un Jésus, il était impeccable, il était, on s'en apprécie qu'il sortait d'une boîte tout le temps. Bon. Et puis, il parle un français parfait, enfin, ça n'a rien à voir avec l'espèce de racaille qu'on a entendu pendant, de part de tous les autres. Alors, les discours de, bon, je donne pas de leçon de français, mais je suis pas candidat à la présidence de la République. Et vraiment, les discours de Sarkozy, c'était moi qui vous cause. C'est nous qu'on est les princes.
Ils étaient très bien, ils étaient écrits pas par lui sûrement, d'accord. Mais ils étaient très bien. Mais quand
il est complètement rallié, hein.
Sarko a fait une touche. Hein.
On va l'attendre à la libération.
Faut pas exagérer.
Victoria Sarko-Lavo.
Encore une voix de Le Pen qui est pipée par Sarko.
Non, elle a pas pipé. Sarko j'ai voté positive. Le Pen au premier tour et j'ai voté nul au deuxième.
Victoria et Sarko positive.
J'ai barré Sarko et j'ai barré.
Tout vu. Hein.
Et j'ai barré Ségolène j'ai barré les deux.
C'est pas une fin, c'est un naufrage.
Mais non, c'est faux. Bon, c'est malheureux quand on pense à tout ce qu'il va avoir comme obstacle.
Oh, bah, il a cherché,
Peut-être. Et qu'on aimerait bien qu'il gagne. Eh bien, il gagne pas.
C'est
mais...
pas de ça qu'on parlait. J'étais en train de dire combien la campagne de Le Pen avait été formidable.
Elle était très bien, c'est vrai. Mais.
Et combien elle a été intelligente. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, lui, gardé ses troupes. Enfin, il a gardé les durs, les brebis, etc. Voilà. Et puis, il a envoyé Fifille, et c'est Soral, et...
Dieudonné.
Bon, Dieudonné, c'était plutôt... il courait en lisière, lui, il n'était pas vraiment partisan, il n'a pas été payé pour ça. Il est venu parce que... Je sais bien pourquoi il est venu, je ne le dirai pas, mais... Et j'étais bien content de le voir venir, parce que c'est un personnage assez séduisant et sympathique.
Oh, en couleur.
Bon, cela dit,
ça lui a réussi d'être sarcopositive à Victoria.
Il était chez Ségolène le soir du deuxième tour, je crois. Donc il est logique, il y a une cohérence, je veux dire, c'est pas, il veut pas de Sarkozy.
Je crois qu'il a été surtout au dernier meeting qu'elle a fait à Paris. Là.
Voilà. Mais ça n'empêche pas que je le trouve plutôt sympathique. Puis il est tellement intelligent et tellement talentueux qu'il a le droit de faire ça. Bon, c'est pas ce que je veux dire. En tout cas, la campagne a été bien menée. On garde l'intérieur et puis on envoie faire la razzia à l'extérieur. Alors, c'est ça, sur le papier, génial. Génial. Quand on voit le résultat, on se dit, c'est marrant, ça n'a pas marché. Parce que on n'a pas rien. Ils ont peut-être beaucoup gagné sur l'extérieur, mais ils ont tout perdu sur l'intérieur. On a perdu quand même 1 million de voix, alors que le nombre des électeurs a augmenté. Bon. Même les sondeurs étaient surpris. C'est dire à quel point.
Les sondeurs l'ont surestimé cette fois, contrairement à leurs chères habitudes.
Alors pourquoi ça? Ben parce que l'effet Marine, ça a été de faire filer à toute vitesse tout le noyau dur. Il a dit, je me dérangerai pas pour voter. Parce que qu'est-ce que c'est le noyau dur? C'est, par exemple, les gens qui sont traditionnalistes, comme moi, qui sont révulsés par l'avortement. Bon, jusqu'à présent, Le Pen a observé une ligne sur l'avortement qui était assez claire. Il montait pas au créneau tous les deux jours, mais il écrasait le morceau. Il disait, on essaiera de gérer cette question d'une façon à la fois humaine et acceptable. Bon, à partir du moment où on dit, ce qu'a dit Marine, elle n'a pas dit grand-chose, elle a dit simplement il faut appliquer la loi telle qu'elle est. La loi Veil n'est pas une mauvaise loi, il faut l'appliquer, et puis éventuellement la réformer, mais bon. Mais le résultat, c'est qu'ils devraient savoir, ces gens qui font profession de faire politique, que les auditeurs des discours, ils n'entendent pas ce qu'on dit. Ils entendent ce qu'ils ont envie d'entendre. Et ce que les gens ont entendu, c'est l'avortement, c'est très bien. Évidemment, elle n'a pas dit ça. Mais c'est ce que les gens ont entendu. Parce que c'était tellement en rupture avec le discours normal de notre famille, qu'ils ont dit, quoi? Pas question du tout de voter pour ça. Ils ont foutu le camp. Alors on pensait qu'ils partiraient chez Villiers. Et au début, quand je disais des petites piques contre Villiers ici, des montées de levées de boucliers en disant mais comment vous osez insulter Villiers ou bon, quand j'ai dit au début de toute façon Villiers au deuxième tour il appellera à voter Sarko, je me souviens qu'on a eu des dizaines d'appels disant pas du tout, il a dit le contraire, il ne le fera pas et tout. Bon, alors, on voit le résultat. J'avais dit aux gens, j'avais dit aux auditeurs et aux lecteurs qui m'ont écrit, j'avais dit attendez, moi, je ne discute pas maintenant, attendez le résultat, on verra.
Le résultat c'est qu'il a, je le dis pour les auditeurs qui auraient manqué un épisode, c'est qu'il a bel et bien, après trois jours de réflexion, appelé expressément à voter Sarko.
Il n'a pas réfléchi, c'est qu'on lui a téléphoné en lui rappelant qu'on pouvait lui mettre des candidats partout en face.
Alors qu'il aurait simplement pu dire, en tout cas, il n'est pas question de voter Ségolène. Ce qu'a fait Bernard Anthony, par exemple, Bernard Anthony, il n'a pas dit il faut voter Sarko, il a dit pas une voix pour Ségolène. Bon. Ce qui rejoint un peu...
ce que disait Ferré.
Ferré, voilà, c'est tout. Bon, alors, ils ont perdu le noyau dur, qui s'est débandé, littéralement, parce que c'est vrai que c'est pas de la faute du site de l'organisation de la campagne, mais pas totalement. La ligne moderne, c'est la faute, ça c'est indiscutable. Le côté branchouille qui emmerde tout le monde, c'est vraiment un défaut d'organe.
C'est qu'il n'y a pas besoin du front pour ça. Je veux dire, c'est comme l'église moderniste. Il n'y a pas besoin de l'église et de sa tradition bimillénaire pour faire du modernisme et danser le cha-cha-cha dans l'église.
Quand on a un Martinez qui vous dit on ne peut pas élever des barbelés jusqu'au ciel, il faut ouvrir à l'intégration. Quand Le Pen dans ses discours dit il faudra supprimer le RMI parce que c'est quelque chose qui est un scandale et qui organise, c'est une des pompes à immigration et d'autre part ça justifie la paresse, et que Martinez arrive derrière en disant il faudra faire le RMI planétaire, bon, même le lecteur moyennement doué se dit qu'il y a quelque part où on l'emmène en promenade, quoi. Moi j'ai trouvé que c'était une bêtise noirâtre quand Martinez dit on va organiser des grands états généraux pour émettre des idées et puis je publierai les résultats dans lesquels on dira ça, ça, ça et ça et ça. Alors comme on sait déjà ce qu'on va dire, ça s'appelle le centralisme démocratique, c'est pas la peine d'organiser des états généraux. Et ça, encore une fois, même le lecteur moyennement doué, il comprend qu'on se fout de sa gueule. Bon, eh ben, on s'est foutu de sa gueule, il a compris, il est resté chez lui, ou il a voté ailleurs. Il s'est dit, tant qu'à se faire foutre du monde, tant qu'à se faire foutre de moi, je préfère me faire foutre de moi par des ennemis que par des amis. Et il a voté Sarkozy. Voilà. Voilà ce qui s'est passé.
Pour être complet, Serge, et sans vouloir manger, ôter le pain de la bouche de Victoria, son avocate patentée, il faut quand même rendre à Sarkozy ce qui est à Sarkozy et dire qu'il a été quand même très malin. Moi, avant, et qu'il est allé les chercher, les piquer nos voix aussi, une par une, comme il le disait. Parce que moi, personnellement, on a commencé à dire comment on avait voté. Avant le premier tour, je ricanais en disant ces grossières astuces, ces grossiers clins d'œil, il nous fait du genou avec une telle grossièreté que personne va marcher, et surtout pas moi, bien entendu. Mais je vous avouerai que au cours du débat Sarko-Ségo, pendant que Madame Royal m'exaspérait, et je pense en exaspérait plus d'un, d'une voix douce, sinon doucereuse, Monsieur Sarkozy nous disait que lui vivant, jamais la Turquie n'entrera en Europe.
Oui, je connais un autre qui avait dit, moi vivant, jamais je n'entrerai en Europe.
Moi j'ai payé pour De Gaulle. Et surtout, tu oublies une chose, c'est que immédiatement, dans son discours d'intronisation, si on veut, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je remets en réflexion le bassin euro-méditerranéen. Ouais. Et je te rappelle qu'il y a à peine 2 mois, le bassin euro-méditerranéen, il incluait dedans la Turquie. Donc,
vous faites bien tout ça. Je suis pas un gosse et je me le suis dit immédiatement. Je me suis dit, monsieur Sarkozy, qu'est-ce que je me suis dit? Probablement ment-il, mais en tout cas, il se donne beaucoup de mal pour me flatter et pour me dire ce que j'ai envie d'entendre. Alors même s'il ment, en tout cas, il va traîner cette promesse comme un boulet pendant tout son mandat. Et donc, je vote pour lui contre Ségolène. Et j'ai voté pour lui, je l'avoue.
Chirac avait des centaines de promesses, il les a pas tenues pour plus. Il tiendra ce qu'il aura envie de tenir et ce qui est déjà dans sa tête.
Le jour où le moment sera venu de punir les collabos, Je me ferai un plaisir de nouer moi-même la corde autour du cou de Goffman dont je
vous aurez du travail, Serge, parce que 48%, j'avoue d'autant plus facilement que 48% des électeurs de Le Pen en ont fait autant.
Ça ne fait rien, vous serez pendu quand même.
Oh, vous allez en pendre voilà. Du monde.
Il faut commander de la corde.
Non, il faut pas dire des têtes vont tomber, il faut dire quelles têtes vont tomber.
Lesquelles ?
Comme disait l'autre givré, là, comment il s'appelait déjà ? Un socialiste fou avec des yeux,
oui, attends,
des yeux hagards. Peu
bon,
importe.
Enfin, le nom ne nous vient pas. Tiens, nous faisons un petit message en attendant. Alors, un auditeur nous dit, ma fille qui travaille dans un lycée parisien me signale que tous les jours, les SMS circulent sur les portables des jeunes pour les appeler à la révolution, à un nouveau mai 68. Ils veulent boycotter le bac et bien entendu, les profs, pour la plupart, sont de leur côté. Voir ce qui s'est passé au moment du CPE.
D'accord. C'est vraiment des grands démocrates, ces gens-là.
D'accord ou non avec Sarkozy, c'est le moindre mal à côté de Sego, et on peut le laisser travailler un moment en pensant que le redressement de la France est en jeu.
Ce sont les mêmes champions de la démocratie qui ont dégradé tout l'affichage électoral officiel. Je pense quand même que ça tombe sous le coup de la loi. Ceux qui, comme moi, circulent dans Paris ou ailleurs ont remarqué que les affiches de Sarkozy étaient systématiquement déchirées et celles de Sego presque toujours intactes. Ça aussi, c'est la leçon de démocratie de ces gens-là qui répondent aux urnes par l'émeute.
Non, mais si tu as remarqué aussi bien les maires actuels de gauche ou les associations, tu parlais de l'UNEF tout à l'heure, c'est pas elle qui pousse aujourd'hui à la révolution, parce que à qui ça rend service les bus qui brûlent en ce moment tous les soirs en banlieue parisienne,
d'après toi? Que ce sont des imbéciles seulement.
La révolution va pas avoir lieu, mais par
Jean-Pierre,
contre c'est
ils
des
ont attendu
sont...
deux jours pour dire arrêtez les émeutes s'il vous plaît, mais vendredi 4 mai sur RTL, Madame Royal a ouvertement menacé d'émeutes si elle n'était pas élue, et le mouvement, c'est le Parisien libéré qui en témoigne, et c'est imprimé à 500 000 exemplaires, le soir à la Bastille, dimanche soir, les jeunes socialistes étaient là encore constitués, avant de se débiner, quand il a commencé à faire trop chaud, ce sont eux qui ont allumé la mèche de l'émeute, obéissant aux consignes de la femme royale sur RTL le 4 mai. Toutes ces choses-là sont inscrites dans le marbre, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Alors maintenant, évidemment, ils se rendent compte qu'ils se sont encore tirés une autre balle dans le pied, une de plus.
Ils vont finir par avoir les pieds dans un sale état. Monsieur Philippe Labattu, notre ami Philippe Labattu, je pense que je peux dire son nom, lui, il est né à Labé, qui est en Guinée française, comme vous le savez tous. Vous le saviez, non?
Non, pas du tout.
Je vous le dis, voilà, pour ça, vous voulez apprendre quelque chose. Et bien, sur sa carte d'électeur, nous dit-il, c'est Labé, Tchécoslovaquie. C'est vraiment n'importe quoi. Ce pays est en train de devenir n'importe quoi. Voilà. Il y a un très joli dessin que nous envoie Miège. C'est deux juges d'instruction qui se présentent devant la porte de l'Élysée avec leur dossier en disant « On vient pour le pot d'adieu de Monsieur Chirac ». Voilà. Et puis, à propos, tiens, pour revenir encore à Sarko, il a dit une chose. J'étais étonné de la réaction de Le Pen, qui a eu des propos ambigus. Je l'avais déjà dit d'ailleurs sur le fait que quand on n'était pas 100% français, on pouvait pas incarner la France comme on doit l'incarner un président de la République et tout. J'ai pas compris pourquoi il avait dit ça à propos de Sarko, qui était fils de légionnaire, fils de légionnaire étranger. J'ai trouvé que c'était maladroit et déplacé, mais c'est surtout que ça répondait pas à la question posée. Il aurait été beaucoup plus fructueux, à mon avis, de citer la phrase qu'il avait prononcée à De Villiers, la fameuse phrase dans laquelle il dit « Toi, tu as de la chance, tu aimes la France des clochers, des terroirs, et moi, ça me laisse complètement froid. » Phrase qui lui serait revenue en pleine face le soir de son élection, quand il a dit j'éprouve pour la France un amour charnel. Alors c'est n'importe, il dit n'importe quoi de toute façon, ça c'est pas étonnant. Si c'était pas le cas, il ne ferait pas la politique, il ne serait pas président de la République, il ferait pas de politique, il ferait un métier honnête comme tout le monde. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Non.
Ben, si, moi je vous propose, Serge, puisque je dois partir à 7h30, de consacrer 2 minutes à la promotion du libre journal imprimé, Et je voudrais que vous m'accordiez 2 minutes de plus pour faire le point sur la liberté de la presse. Et évidemment, la jointure entre les deux, c'est pourquoi lire le libre journal, pourquoi lire ce petit journal, plutôt qu'un gros journal patenté avec 200 ou 300 collaborateurs. Je ne sais pas comment il faut écrire collaborateur.
Oui, bah, comme vous voulez. En tout cas, je voulais dire que c'est Paul Quillès qui a dit le, voilà. Il ne faut pas dire des
Quillès, informés,
mais...
Quillès.
Oui, aujourd'hui, on peut se poser
Oui, la liberté de la presse, je n'ai pas choisi le sujet absolument tout seul, puisqu'il y a un organisme privé international dont le nom m'échappe, je vous en demande pardon, qui vient de réaliser une espèce de classement pays par pays de la liberté de la presse. Et la France, mère des arts, des armes et des lois, y apparaît à la 39e place sur 195 pays. Alors je pense que ça a dû étonner pas mal de monde, mais nous, est-ce que ça doit nous étonner si nous souvenons simplement des 5 ou 6 dernières semaines? Au cours des 5 ou 6 dernières semaines, des jeunes, j'espère que tout le monde comprend de quel jeune je veux parler, tuent un policier à la foire du trône. Pendant 24 heures, la préfecture de police essaye d'imposer de façon parfaitement totalitaire la version suivante. C'est un accident, il s'est tué tout seul, il est tombé tout seul. Et puis finalement, ça explose, cette version totalitaire du meurtre explose parce que tout simplement, il y avait trop de témoins. À Clichy, il y a 6 semaines... les pauvres jeunes martyrs, Clichy-sous-Bois, 93, le berceau, comme dit poétiquement le Figaro, des émeutes de 2005. Les pauvres jeunes martyrs de Clichy-sous-Bois massacrent littéralement un malheureux Pakistanais qui avait le malheur de passer devant eux et de pas leur donner son téléphone portable assez vite. Ils le massacrent à coups de latte, à coups de pied. Ils le tuent par terre, ils le lynchent, ils le tabassent à mort. Blackout total. C'est paru 3 semaines après dans le Figaro, parce que le Figaro s'offusquait de la multiplication des agressions de journalistes dans la même ville de Clichy-sous-Bois. À Bobigny, une femme policier est violée il y a 6 mois. Blackout total, la presse aux ordres, la presse du 39e pays sur 195 pour la liberté de la presse, organise un blackout total sur cette information. Il faut qu'une deuxième femme policier soit violée pratiquement au même endroit 6 semaines après pour qu'enfin il soit impossible de le cacher. Et enfin aujourd'hui, je pense que vous avez entendu ça comme moi, 2 journalistes du Monde vont nous sortir un bouquin qui rend compte de la crise du couple Ségolène Royal François Hollande. Alors là, vraiment, c'est le pompon. Parce que naturellement, ces deux-là annoncent aussitôt qu'ils vont porter plainte, alors qu'il me semble qu'ils devraient remercier ces laquais, leurs laquais du monde, qui attendent le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui attendent la fin de l'élection pour sortir ce bouquin, qui leur aurait certainement beaucoup nuit. C'était, alors là j'arrive au Libre Journal, la crise du couple Ségolène Hollande. C'était dans le Libre Journal il y a 6 mois. Alors je reconnais qu'on n'en a pas fait des tartines sanglantes à la une, mais enfin c'était explicitement dans le Libre Journal il y a 6 mois. Exactement comme les 2 ans que Madame Royal a consacré à son dentiste et à son chirurgien esthétique, ça n'a été repris nulle part. Nous l'avions nous recopié, disons-le, Serge d'en faisait document. On a été suivi par Minute. On a été suivi par novopresse.info sur le net. Point final, la presse aux ordres, les laquais 39e sur 195 n'en ont pas touché un mot. Alors, voilà pourquoi il faut lire le Libre Journal, pourquoi il faut aider le Libre Journal et s'abonner, comme je vous en supplie et comme je vous en conjure à peu près tous les mercredis que Dieu fait, ou du moins que Serge de Becquet, je m'invite à cette antenne, parce que avec tous nos défauts, avec nos petites manies, avec nos faiblesses, eh bien nous, quand nous avons une telle information, nous la publions, et c'est sans doute pas par hasard que Serge de Becquet, il va me le dire si je me trompe, en cours des poursuites en ce moment même pour la 40e ou 37e fois de sa vie. C'est parce que nous avons, nous, l'infernal culot, ou en tout cas la solide indépendance nécessaire pour dire Madame Royal s'est fait ravaler la façade, Madame Royal ne couche plus avec son soi-disant compagnon, nous l'imprimons. Et c'est dommage que nous l'imprimions pour seulement 3000 abonnés. Il faut que d'autres nous rejoignent. nous rejoignent avec, par exemple, en commandant par exemple le numéro 406, qui est le numéro en cours jusqu'à demain matin. La une, c'est sur Jeanne d'Arc, bien entendu, puisque c'est ça, le Front National lui fait sa fête le 1er mai. L'Action française et les autorités, tous les préfets de police, de région, de département, lui font sa fête officiellement le 13 mai prochain. Les amis de Jeanne d'Arc seront devant sa statue, place des Pyramides, à 8h45, je le dis à ceux que ça peut intéresser. Nous publions dans ce numéro 406 un reportage exclusif sur Jeanne d'Arc en Amérique. Nous avons découvert que Jeanne d'Arc était peut-être plus populaire, ou au moins aussi populaire qu'en France. Elle a une ribambelle de statues équestres absolument incroyables, monumentales, à la Nouvelle-Orléans, à Washington, en Californie. Et c'est vraiment un personnage extrêmement populaire là-bas. Nous avons fait un reportage, nous avons visité une exposition Jeanne d'Arc à Washington. C'est dans le Libre Journal numéro 406, avec une lettre très émouvante du proto-académicien, je veux dire que Jean Raspail, puisque c'est de lui que je parle, devrait être académicien s'il y avait une justice et s'il y avait une académie. Tout simplement, Jean Raspail écrit au père Aguarche pour saluer, pour rendre hommage aux orphelins, à la maison des orphelins de Riomont. Serge de Becquetch, ici présent, vient au secours de la police, et même de police secours, en rendant compte, en expliquant ce qui se passe à l'intérieur de la police et comment la révolte gronde, en particulier après les événements de la foire du trône. Le divin marquis également présent s'est fait encadrer par Dubout, du moins un épigone de Dubout. Je veux dire qu'on nous a offert une caricature un peu cruelle, mais surtout extrêmement drôle, de notre chroniqueur mondain entre deux mondaines, qui est extrêmement drôle, qui est de... Et alors j'apprends, Olmeta, monsieur le marquis d'Olmeta vient de me montrer la lettre de l'auteur. C'est sa première publication, il est très touché qu'on l'ait publié. Moi je lui dis que s'il se remue un peu, il n'a pas fini d'être publié, parce que c'est quasiment, ça vaut quasiment du bout, hein. C'est vraiment très 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 méchant et très très drôle. Voilà, François Brignot, notre monument historique, nous décrit les draps roses de Ségolène. Voilà, c'est le numéro 406. Dans le numéro 407 que nous allons confectionner tous les trois demain à l'imprimerie, je crois, Serge de Becquetch, que vous exprimez sur 4 pages, avec beaucoup de références, beaucoup de documents, des doutes sur la volonté de M. Sarkozy, dont je parlais tout à l'heure, de fermer les portes de l'Union européenne à la Turquie.
Oui, je pense que c'est un... Enfin, j'explique pourquoi j'ai de bonnes raisons de penser. Moi, je suis pas... Enfin, ce que je pense, moi, n'a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi les gens qui connaissent ces questions ont de très bonnes raisons de penser que on est en train de se faire empaumer par Sarkozy. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il était contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais il est en train d'organiser les choses autrement. Pour ça, on le sait comment ça va se passer, avec un partenariat privilégié qui, dont les privilèges seront pratiquement supérieurs à ceux des membres réels de l'Union. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les motivations de Sarkozy pour nous raconter ses carabistouilles et faire exactement le contraire. Qui y a-t-il derrière et quels intérêts sont derrière? Et là, il y a vraiment, je crois, des informations nouvelles et intéressantes dans cet article. Voilà.
Article qui, donc, paraîtra dans le numéro 407, le numéro que nous... Voilà. Alors, donc, si on veut feuilleter nos archives gratuitement sur le net, c'est francecourtoise en un seul mot .info. Si on veut commander le numéro 406 et 407 ou 407 dont nous venons de parler, on envoie 5 euros ou 10 euros ou un carnet de timbres ou deux carnets de timbres. Si on veut s'abonner, si on veut pas attendre les journalistes du Monde pour savoir ce qui se passe dans le couple Hollande-Royal, si on veut, bon, alors, ça fait rire autour de moi, alors je vais donner un autre exemple. Si on veut savoir ce qui se passe dans les zones de sécurité de l'aéroport de Roissy, 2 ans avant que Monsieur de Villiers ne nous alarme sur les mosquées de Roissy, on envoie 110 euros, donc pour un abonnement d'un an, pour ce décadaire, 3 fois par mois, on envoie 110 euros à l'ordre de SDB, 4 place France Liste, 75-010, Paris.
Merci, il parle bien, j'ai presque envie de m'abonner à chaque fois.
Serge, on va parler de... J'oublie mes 4 derniers petits messages.
Oui, puis je vais donner la parole à François. Oui. Parce qu'on va terminer par une petite collation.
Alors, cher Serge, je suis d'ordinaire d'accord avec vous. Aujourd'hui, non. Il faut avoir de l'espoir et donner une chance à Sarkozy, voire l'aider en le soutenant. Je pense que la victoire de Le Pen dans cette élection est d'avoir poussé Sarkozy à droitiser son discours et à s'apercevoir que cela passe et fonctionne, et je pense à évoluer, à redonner une fierté et du courage à la droite molle. Et alors, il y a un auditeur qui nous fait part de son rêve. Mon rêve, que Sarkozy fasse un coup d'État, c'est-à-dire déclare l'ère Chirac, c'est fini, car c'est un radical socialiste. Et je ne prends dans mon gouvernement que des gens de la vraie droite, des gens de chez Le Pen, etc. En plus, mais attendez, oui. C'est le rêve de l'auditeur, lui couper par ses ailes déjà, quoi. Et couper toutes les subventions à la gauche. Et là, je crois que je rêve, dit-il en retombant.
Je confirme, parce que M. Fillon, qui va probablement être Premier ministre, il a pour première tâche de débaucher des personnalités de gauche, nous dit le Canard Enchaîné d'aujourd'hui. Claude Allègre, qu'on a repéré par la sortie de service du siège de campagne. Nicole Notat, ancienne patronne de la CFDT. Et même Jack Lang. C'est ce que nous dit le Canard Enchaîné.
Il devrait débaucher Hubert Védrine.
Je veux descendre, il y en a marre.
Mais Védrine s'est montré, a été très froid vis-à-vis de Royal.
Oui, il est bien, Védrine. Voilà.
Il est bien,
le Canard donne aussi les noms d'Anne Lauvergeon, ancienne conseillère de François Mitterrand, et Jean-Marie Bockel, le maire socialiste de Mulhouse, qui évidemment est vivant et travaillant au pays en Alsace, est bien obligé d'être assez droitier comme homme de gauche.
Alors, oui, c'est bien.
Si, attendez, alors ça c'est un auditeur qui a l'esprit un peu tordu.
Ah.
Si Sarkozy, excusez-moi monsieur, c'est ce que vous vouliez que je dise sûrement. Si Sarkozy commence aussi mal avec sa croisière de milliardaire, c'est peut-être qu'il l'a fait exprès. En effet, un mois de gaffe dans ce genre et le PS gagne les législatives, surtout avec les quadrangulaires UMP, PS, UDF, FN. Intérêt pour lui ? Il pourra ne pas honorer sans honte toutes ses promesses et laisser DSK Premier ministre gérer le bazar qui est devenu la France. CQFD. La question était, Monsieur Sarkozy veut-il cohabiter et cela couler douce pendant 5 ans?
Ça aurait été plus simple de ne pas se faire rire président quand même.
Non, je crois pas. Et puis, dans son caractère. Aussi bien c'est dans le caractère de Chirac de rien foutre vraiment, oui, de rien changer. Donc,
c'est un activiste.
Il faut attendre le 2 décembre, il va peut-être nous faire une bonne chose.
C'est un zébulon.
Ah oui. Et alors bon, Monsieur Sarkozy a expliqué qu'il ne s'agissait pas de toutes les femmes battues du monde, mais de toutes les femmes battues dont le dossier lui serait présenté par l'association Cœur de Femmes.
Non, c'est pas vrai.
De façon aussi argumentée que les quelques dossiers qui lui avaient été présentés par cette association. C'est signé Anne-Marie.
Oui, Anne-Marie Chadla. Mais oui, c'est une collaboratrice du Libre Journal. Mais ma chère Anne, vous ne voyez rien venir. Je suis obligé de vous dire que ce que vous dites n'est pas exact. La vérité, c'est que le 20 avril. À la mutualité devant 2000 personnes dont Madame Veil, il a dit très exactement que toutes les femmes battues devaient être considérées comme des citoyennes françaises. Et il s'est tellement aperçu qu'il avait une connerie, parce qu'évidemment c'est une connerie, bon, on est bien d'accord, qu'il a fait rectifier la version publiée du discours d'où cette phrase a été complètement éradiquée. Bon, il devrait savoir, c'est quand même pas né un perdreau de l'année, qu'il existe des appareils qui s'appellent des magnétophones sur lesquels on enregistre les phrases. Il y a même des appareils qui permettent d'enregistrer les phrases et les images. Et donc on le voit prononcer ces paroles. Donc il a bel et bien dit ça. Alors qu'il se soit rendu compte dans la foulée que il était un peu énervé quand il avait dit ça, c'est possible. Mais
En fait, c'est ce dont parle le message, c'est qu'il a tenté de corriger quand Ségolène Royal, pendant le débat, l'a attaqué là-dessus en lui disant « Mais vous dites que vous stoppez et vous faites venir toutes les femmes battues du monde entier ». Et il a corrigé en parlant de cette association.
Voilà.
Les femmes ont qu'à passer par les mains de Goffman, elles seront forcément françaises.
C'est ce que je dis dans un petit papier. Alors, François, nous finissons par la collation. Alors, vous m'avez expliqué que vous vouliez parler ce soir des restaurants japonais de Paris, mais des restaurants japonais d'un genre un peu spécial.
Où on ne pratiquent que la cuisine française, parce que les Japonais ont appris la cuisine dans notre beau pays avec des cuisiniers français. Mais je voudrais quand même revenir sur ce qui nous préoccupe tous, c'est que le Phuket, c'est un restaurant internationalement connu, donc connu dans le monde entier, apprécié. On va pas faire de commentaires. Si vous avez les moyens, vous allez au Phuket, et ce sera à vous de dire ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Par contre, les palaces ont des caractéristiques très précises. C'est un confort exceptionnel, des tarifs revus et corrigés à la hausse. Et les palaces ont une particularité, c'est qu'il y a des salles de bain merveilleuses. Et dans ces salles de bain, il y a du linge éponge des plus grands fabricants. Enfin, je ne suis pas en train de vous faire rêver. Et il y a aussi des choses qui se collectionnent, ce sont les produits d'accueil. Il y a beaucoup de savon, beaucoup de shampoing, beaucoup de crème pour le corps, pour vous mesdames, également des peignoirs de bain, enfin tout un tas de belles choses. Et la particularité du Phuket, de ce palace qui vient d'ouvrir assez récemment, il y a quelques mois à peine, c'est qu'on a remplacé les chaussures en tissu éponge par des babouches. Voilà. Donc ça a posé un problème à la direction. Ils se sont promenés dans Paris. Je pense qu'ils n'ont pas dû aller très loin. Ils sont allés à Barbès et ils sont allés et ils ont acheté des babouches. Donc il y a des babouches dans toutes les chambres et pour le prix de la nuit inoubliable que vous passerez au Phuket, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voilà, c'est les mille et une nuits. Vous repartez avec votre paire de babouches. Donc on va quitter les Champs-Élysées pour revenir à nos amis japonais, les célèbres fils de l'Empire du Soleil Levant. Qui, il y a une trentaine d'années, il y a eu un phénomène avec un ministre du tourisme que nous connaissons tous, qui s'appelait Jacques Médecin, avec Paul Bocuse. Paul Bocuse, toujours bon pied, bon oeil, il avait quelques années de moins, il vient de fêter ses 81 ans à Monaco, à l'instigation du cuisinier monégasque, qui n'est pas monégasque, qui est landais, Alain Ducasse. Ça s'est pas très bien passé parce que ses grands copains étoilés ne se sont pas déplacés, étant donné qu'il fallait payer 1000 euros pour participer à la fête, plus le transport, plus les faux frais. Donc, Paul Bocuse a eu l'idée d'appuyer Jacques Médecin il y a une trentaine d'années pour faire venir des jeunes cuisiniers japonais assez doués pour apprendre la cuisine française. Et on doit dire que ça a fait fleurette, ça a fait école. Il y a toujours, aujourd'hui en France, des Japonais qui travaillent dans des brigades, plutôt dans les grandes brigades. Mais alors le phénomène qui est intéressant, c'est que on retrouve des Japonais chefs propriétaires de leurs petites affaires. Alors dans toute cette sélection, j'ai oublié ma liste d'adresses, malheureusement, il y a des adresses tout à fait accessibles. Et puis on va tout de suite commencer par les adresses haut de gamme. Il y a un cuisinier japonais qui ne possède que 18 restaurants au Japon, dont 16 restaurants français, qui s'appelle Hiramatsu et qui est installé rue de Longchamp à Paris dans le 16e, à la place de l'ancien restaurant de Faugeron, qui était un restaurant de cuisine traditionnelle de très haut niveau. Alors là, vous allez manger comme, non pas comme à la maison, mais comme dans d'autres restaurants français, et la cuisine est entièrement préparée par des jeunes chefs japonais. Il y a également dans le haut de gamme, parce qu'il n'y a pas le bas de gamme, mais il y a des restaurants qui sont malheureusement plus chers que les autres, le Stella Maris, qui est rue Arsène Housset. Alors ce chef qui s'appelle, je ne les ai pas appris par cœur parce qu'ils sont nombreux, je vais vous donner son nom tout de suite. Il s'appelle Tateru Yoshino. C'est un ancien élève de Joël Robuchon et des célèbres frères Trois-Gros. Et il fait un grand classique de la cuisine française, c'est la tête de veau en tortue. Ah. Il ne s'agit pas de mélanger la carpe et l'alouette ou la tête de cheval ou haricot rouge. C'est simplement les épices qui sont variées, délicieuses, qui sont qualifiées de tortue. Mmh. Et en saison, il fait également un lièvre à la royale. Alors évidemment, ça sont...
C'est un des derniers qui fait le lièvre à la royale.
Non, il y en a beaucoup. On en parlera à la saison. Je pense que notre ami doit bien avoir quelques adresses aussi à nous communiquer. C'est redevenu très à la mode. Malheureusement, souvent, on ne sait pas d'où viennent les lièvres. C'est souvent, malheureusement, en saison, de Tchécoslovaquie, de Chine, surgelés. Donc, je vais vous donner des adresses tout à fait accessibles. Là, comme aurait pu le chanter Perret, il s'agit d'un boui-boui assez crado, rue Pierre Leroux, dans le 7e. Il y a un cuisinier japonais qui, lui, prépare pour une vingtaine d'euros des riz de veau, des rognons, de plein de bonnes choses. Là, je manque à toutes mes prérogatives parce que je voulais vous signaler, et j'aurais dû commencer par elle, et je vous prie de m'en excuser, on avait fait venir chez Fauchon, à grand renfort de médias, les médias sont toujours disponibles, on leur raconte n'importe quoi, vous connaissez aussi bien que moi comment ça se passe, une cuisinière qui s'était réveillée un matin en disant « Je suis chef de cuisine », qui s'appelait Fumiko Kono. Kono, c'est du japonais, ne pas confondre. Et à partir de là, elle a eu la couverture de nombreux magazines. Elle était tellement surmenée qu'elle est partie se reposer à New York. Et je pense que normalement, j'ai pas eu le temps de faire l'enquête chez Fauchon. C'est un chef tout à fait masculin, parce que c'est quand même un métier difficile, bien que les jeunes femmes aient de plus en plus d'aptitudes à faire ce difficile métier. Donc, elle est repartie se reposer. Donc, il ne reste qu'une cuisinière japonaise installée à son compte à Paris. Elle s'appelle Harumi Béal. Elle a épousé un Français, Béal, c'est un nom bien de chez nous, et dans un décor très confortable, très romantique, rue Blomet, elle fait une cuisine assez étonnante. Elle fait notamment un cabillaud enveloppé dans des feuilles de banane qu'elle cuit à la vapeur. Ça c'est pas mal du tout.
Mais c'était l'un des premiers à avoir introduit la japonaise dans la cuisine française. C'était quand même notre ami Raymond Oliver.
Il a fait plus que ça, Raymond, notre ami. Il a épousé carrément une japonaise, oui, qui était très, très attirée par Raymond, par son savoir et par sa bibliothèque.
Oui,
il a fait une très, très belle bibliothèque. Et je crois savoir, oui, non, c'était une véritable bibliothèque avec des incunables. Et je pense que cette bibliothèque doit se retrouver dans la banlieue de Tokyo ou dans la banlieue de Kyoto. Elle n'a pas été perdue pour tout le monde.
Mais alors, donc, si je comprends bien, les Japonais ne tiennent que des restaurants français à Paris.
Non, pas du tout. Ça, c'est des purs. Ce sont des cuisiniers traditionnels qui ont appris notre cuisine, la cuisine française, et qui ne font que de la cuisine avec des produits français.
Oui, mais est-ce qu'il y a des Japonais qui ont des restaurants japonais en France?
Parce qu'il y en a partout, japonais. Alors là, on en parlera une autre fois, si vous me le permettez, parce que là, c'est la magouille et compagnie. Parce que quand vous allez manger des sushis, c'est pas des sushis, c'est des soucis. Et les sashimi, c'est la même chose. C'est tout à fait des restaurants dépôts où on leur livre tous les jours ces merveilleux poissons finement coupés en lamelles à la machine à trancher le jambon, parce que tout ça, c'est du surgelé, et que les filières de ces sushis sashimi, ce sont nos amis les Chinois qui n'ont pas oublié que ça pouvait être très intéressant, parce qu'il suffit de décongeler et de servir. Et il y a également des Vietnamiens, et puis il y a également des gens qui étaient dans ce qu'on appelle la fringue, et qui se sont installés à des endroits stratégiques au niveau de la vente, parce que ça se vend comme des petits chouchous. On peut même les commander par correspondance. Et exactement, il y a Sushi West, il y a Sushi, Sushi, Susha, Sushi. C'est pas terrible. Et évidemment, c'est d'un rapport extraordinaire, parce que si vous avez le temps, Serge, et vous aussi, Victoria, vous prenez un saumon et vous le découpez en lamelles, vous allez voir le nombre de portions que vous allez réunir à revendre à vos amis. Vous allez faire fortune.
Bon, ben, je vais installer marchand.
Et je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs une partie en blanchiment d'argent, parce que...
Là, mais
je ne citerai pas l'endroit, mais il y a un endroit donc, où ça se vend. Il n'y a jamais personne à l'endroit où il est. Et en plus, il y a une erreur de casting extraordinaire, parce que c'est fait pour du passage rapide, c'est du plat à emporter. Hein. Et le prix est largement supérieur au prix d'un ticket restaurant. Donc je ne vois pas qui a intérêt à...
Ah oui, il faut une remise d'un euro, je pense, sur la cuisine à emporter. Là, il y a un problème, parce qu'aussi la TVA n'est pas la même.
Oui, non, mais là, le prix du plat est beaucoup plus cher qu'un ticket resto. Or, le type qui vient déjeuner en restaurant rapide.
Je conclurai par une anecdote. Un soir, Bruno Gollnisch m'a emmené dîner, enfin, nous a emmené dîner avec ma femme dans un restaurant japonais qu'il connaissait bien, qui est connu, pas loin de la rue Rivoli. Et on a été servi par un garçon très asiatique. Et Bruno, qui pensait à autre chose, l'a juste vu le gars arriver pour prendre la commande. Et Donc il a, dans son japonais le plus élégant, il a passé la commande, il y a eu un long silence, et au bout d'un moment on a entendu sortir de ce garçon asiatique une voix de Titi Parisien disant « Ah monsieur, je m'excuse, mais moi je ne comprends pas parce que je suis né à la Courneuve et j'ai jamais vécu, je suis vietnamien, j'ai jamais vécu au Vietnam. » Et il était maître d'hôtel dans un restaurant japonais très chic. J'ai connu l'histoire inverse, c'était un garçon qui était, comment s'appelait Marquis, ce restaurant russe qui se trouvait dans une impasse presque en face de, enfin dans la rue Marbeuf par là.
Non, il était sur les quais, non
la non, 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 enfin dans une impasse, il y avait, en face d'une école, et alors on allait s'arsouiller là-bas avec les amis, et il y avait un garçon, la première fois que j'y vais, je lui dis, mais c'est curieux, il avait un accent russe, à couper au couteau, et je lui dis, mais vous venez d'arriver de Russie, vous avez... Il me dit, non, moi, deuxième génération française, je nais à Gennevilliers, mais j'ai vécu toujours dans le milieu russe, pas sortir du tout, donc je pas très bien parler français. Voilà. Donc, restaurant japonais pour la cuisine française, pour les restaurateurs japonais pour la cuisine française, de bonnes adresses.
Voilà, de très bonnes
merci
adresses.
Merci François. Voilà. Et bien, à la prochaine fois.
À la prochaine fois. Merci beaucoup.
Révélation sur la cuisine.
Merci de passer la soirée avec nous. Je vous rappelle qu'à 21h30, tout à l'heure, vous pourrez suivre en direct le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau. Tout de suite, voici en direct, toujours, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30. Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Bien, asseyez-vous, Madame Gourvenec, je vous en prie, venez à ma droite, nous reprenons cette émission pour la deuxième partie. Mes invités sont, alors toujours dans l'ordre des aiguilles d'une montre, non, je vais prendre l'autre ordre parce qu'on va faire d'abord honneur aux dames, bien entendu. Je reçois une dame dont j'ai fait la connaissance tout à fait par hasard en cherchant une information sur Internet, je suis tombé sur un site Internet qui m'a littéralement bouleversé. Et j'ai demandé à la dame qui est à l'origine de cette initiative de venir nous voir. Elle s'appelle Nicole Gourvenec. Et il lui est arrivé une aventure, c'est pas une aventure, il lui est arrivé un drame dans sa vie tout à fait tragique, dont elle a tiré un fruit extraordinaire en 89, donc il y a maintenant presque 20 ans, 18 ans. Son garçon, qui avait 13 ans, est mort brutalement par accident. Et ce qui est probablement ce qui peut arriver de pire à une mère, j'imagine. Et puis, ensuite, il s'est passé un événement incroyable, stupéfiant, dont on va parler, et qui est tellement stupéfiant que il force quand même, il viole les convictions rationalistes les mieux installées. Voilà. On va parler de ça avec Madame Gourvenec. Je reçois également le marquis qui est toujours avec nous. On va parler brièvement avec le marquis d'un délicieux petit bouquin qu'il publie et qui est le texte de sa charmante et passionnante et intéressante et jolie conférence sur l'histoire de l'homme à table. Publié, c'est un petit bijou, hein.
Ah, moi je suis très heureux.
C'est un travail, c'est Benoît Mancheron qui a fait ce travail d'édition.
Citons-le.
Qui tout dire, c'est-à-dire un joli petit bouquin, très très finement, très intelligemment, très élégamment édité sur un joli velin ivoire, etc. Avec une très très jolie vignette en couleur à la une, ça s'appelle L'homme à table de Jean-Paul Chirigues de Olmeta. C'est paru chez Via Romana et naturellement Jean-Paul sera là pour le signer le 13 prochain, comme Madame Gourvenec sera là également pour signer son livre. On va parler de ce petit livre aussi. Je reçois quelqu'un qui avait eu une grande audience lors de sa première visite dans cette émission, qui s'appelle Bertrand Hacquin. Il avait publié un livre dont le titre était
Sur l'Apocalypse,
un travail de décryptage des textes de et autour de l'Apocalypse, qui est un bouquin formidable. Et là, il publie un nouveau bouquin, alors qui est dans une autre qui est de la même nature. C'est le même travail de recherche, de décryptage, de documentation, de confrontation, de contestation, de révision des traductions, des textes originaux. Il a eu accès à des versions intouchées des évangiles, des premiers évangiles. C'est un livre qui va soulever certainement de très violentes polémiques, je le dis tout de suite. Moi, il m'a mis, je dis carrément qu'il m'a mis mal à l'aise. Je trouve son titre, je l'ai dit lundi dans l'émission de Lesquin, je trouve ce titre inutilement provocateur et choquant, puisque c'est l'Église de Pierre, une perversion de l'esprit. Bertrand Aquin sera là pour s'en expliquer dimanche avec ceux qui voudront lui en parler, mais on va déjà en parler dès ce soir. Et puis je reçois ensuite quelqu'un que j'aime beaucoup recevoir parce que c'est un voyageur et on a l'impression qu'il nous emmène avec lui dans ses pérégrinations musicologiques. C'est Jean-Claude Chabrier. Et quand on s'appelle Chabrier, comment ne pas être musicien? Et comment ne pas être musicologue? Alors, Jean-Claude revient là de Roumanie où il a assisté au Pâques roumaine. Et alors, on est simplement trahi par la technique, comme toujours, comme souvent en tout cas, puisqu'il avait apporté une magnifique cassette d'enregistrement de musique roumaine qui sont parmi les plus belles musiques de l'Europe centrale qu'on puisse imaginer. Or, nous avons tellement modernisé l'équipement du studio que, figurez-vous, la cassette, maintenant, ne fait plus partie de l'arsenal des outils utilisables dans cette maison.
Du DVD uniquement, oui.
DVD uniquement. Ah, donc, on ne peut pas passer de musique, alors ce qui va naturellement enlever une partie, non pas de l'intérêt, mais du plaisir d'écoute, puisque nous n'entendrons que la voix de Jean-Claude Chabrier, qui est très agréable. Enfin, qui ne vaut pas forcément
j'entends
celle
bien, mais...
de Maria Lateret ou de Anna Paucker ou de Maria Tanassé. Hein? Oui, non, encore
Anna Paucker, c'est
Anna
un chant un peu pénible.
Un peu pénible, oui, il faut bien dire ça. Et on ne pourra pas entendre Tony Lordache jouer au cymbalum. Mais vous me prêterez, mon cher Jean-Claude, cette cassette, que je puisse l'écouter à la maison, parce que ça, je m'en régale d'avance.
Coup piacere, et avec plaisir, comme ils disent là-bas.
Coup piacere. Bien, alors par qui allons-nous commencer? Peut-être par le marquis, l'homme à table. Marquis, un jour on vous a commandé une conférence.
Oui, voilà, et que j'ai faite, et qui a eu du succès, puis j'ai été obligé de la refaire une deuxième fois. Et puis, comme deux, trois personnes, il n'y avait pas que des jeunes gens m'avaient dit « Oh, j'ai mal entendu, bon, etc. » J'ai fait photocopier le texte. Et puis, un jour que vous receviez ici notre ami Benoît Mancheron, j'avais donné le texte à deux, trois personnes, dont vous, en disant « Bah tiens, regardez ça, ça peut vous amuser, effectivement. » Bon, puisqu'on apprend la naissance de la cuillère, de la fourchette, enfin, des tas de choses. Et Benoît Mancheron, quelques temps après, c'est un rapide hein, quand même, m'a dit « Mais c'est très bien votre truc, on va un tout petit peu le modifier pour que ça ressemble plus à une conférence, et on va en faire quelque chose de joli dans une collection de mon édition. » Et ça a demandé comme ça, je sais pas, 15 jours, et aux surprises, coup de téléphone, venez, c'est prêt. Et je suis ravi, parce que je trouve
c'est
vraiment très
objet,
joli.
Hein, ouais.
Alors et qui vaut 10 euros en plus.
Oui,
hein,
10 euros, c'est pas la même. C'est rien. Le caractère est une très jolie anglaise cursive, c'est vraiment... un très joli objet. Tenez, madame, est-ce que vous pouvez me dire, vous qui êtes une femme qui avait donc forcément du goût, ce que vous pensez?
Ah, je trouve que c'est très très joli.
Le texte est pas mal non plus,
ah,
quand
oui,
même.
Oui,
oui, mais d'abord, un livre, ça
disons
se...
Que oui. Ça donne envie de le lire, hein. Oui, c'est très harmonieux.
Voilà, alors, on le présentera à ceux qui veulent faire sa connaissance.
Dimanche. Je vous précise ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Hélas, pris par mes obligations mondaines, je ne serai qu'au milieu de l'après-midi à la vente.
À partir de 16h.
Oui, j'essaierai même d'être là un peu avant.
Bon. Napoléon est indissociable du poulet maringo, archétype du plat réalisé avec ce que l'on a sous la main, en l'occurrence écrevisses, œufs frits, anchois, croûtons, poulet, tomates, que l'empereur, toujours pressé, ordonna de cuire ensemble. Voilà l'histoire du poulet maringo. Les Gauloises utilisaient pour boire de petits vases, flacons à colle, bouteilles trapues, coupe, tasse, gobelet. Voilà une autre information que je ne connaissais pas. Moi, je croyais qu'ils buvaient dans leurs mains, les Gaulois, qui étaient des sauvages, comme chacun. La mère Miguel faisait son marché à la dernière heure. au moment où ce qui restait bradé, jeté ou donné, elle faisait tout elle-même sur une toile cirée, pas de serviette, dans une vaisselle dépareillée. Elle servait par exemple un morceau de pain, un verre de gros rouge, une sardine, du haricot de mouton, un bout de camembert, une pomme pour 4 francs. Ça, c'était ce fameux restaurant qui s'appelait
moins cher, la Casa Miguel.
La Casa Miguel.
Et qui aujourd'hui est occupé par Olympe, la célèbre cuisinière corse qui, après avoir eu un grand restaurant, s'est reconvertie dans le modeste. Elle a repris ça s'appelle la Casa Olympe. On y mange fort bien.
Voilà,
l'homme c'est à plus table, cher que de madame.
Oui, je l'imagine, parce que 4 fois. Hein, Jean-Paul Chériguez de Meta, l'homme à table, via, aux éditions Via Romana. Et Jean-Paul sera là pour le dédicacer dimanche.
Voilà. Merci, Serge.
Jean-Claude, on peut peut-être parler de la PAC.
Oui. Pardon, de la PAC roumaine.
La PAC roumaine.
Ça se
alors,
chante.
Vous étiez donc en Roumanie à Pâques cette année, qui oui, coïncidait. Les deux Pâques catholiques et orthodoxes coïncidaient.
Eh bien, comme ça, ça m'a facilité le choix. D'habitude, je fais 2 enregistrements à 8 jours de différence ou à 3 semaines de différence. Ça me fait un voyage plus riche. On peut faire pour Noël, j'ai fait la dernière fois le Noël roumain le 25 décembre et le Noël serbe le 7 janvier. Seulement là, pour Pâques, on ne pouvait pas faire les Serbes et les Roumains à la fois. Alors comme j'avais fait les Roumains l'an dernier, cette année, pardon, les Serbes l'an dernier, cette année, je suis allé chez les Roumains. Alors les Roumains, je les suis depuis longtemps. D'abord, quand j'étais gamin, on nous parlait du roi Carole et sa bien-aimée Magda Lupescu
Wolf.
Et de ses phrases, qu'il avait beaucoup d'aventures. Il paraît qu'il avait des arguments assez frappants. Ce n'était pas simplement un amoureux de poésie. On nous parlait aussi d'Elvira Popescu, qui a joué dans Tovarich. C'était notre
comédienne.
Russe de service, et la Russe était roumaine comme il se devait. Comme elle roulait
l'Isère. Il n'y a que les Roumains pour avoir un véritable accent russe. En France, c'est bien connu.
Peut-être, peut-être.
Non, parce que ce que les gens appellent l'accent russe, et quand les Français s'amusent à imiter l'accent russe, c'est pas du tout l'accent russe, c'est une espèce d'accent exotique de l'Est, mais l'accent, ça peut parler comme ça, ça jamais parler. Ça. L'accent russe, c'est beaucoup plus fin. Il faut entendre parler les Russes vraiment francophones pour savoir ce que c'est que l'accent russe.
Mais l'accent russe baisse. Les Russes qui sont venus en 1922 étaient beaucoup plus harmoniques, mélodiques
que
ceux de maintenant. Oui,
c'est devenu une langue de plouc.
Elle s'aplatit. Ben, c'est comme ça. Et c'est une langue de gens sans émotion. Donc, enfin, que non, moi. On ne peut pas dire que les Russes sans émotion, ça
s'aplatit. Ils les cachent. Les étouffes.
Alors, j'ai commencé à vouloir aller en Roumanie après la guerre, du temps d'Anna Paucher. Je ne vous recommande pas Anna Paucher. Parmi les monstres que l'humanité a hébergés, elle est un des meilleurs.
Je pense qu'elle doit faire un excellent carburant pour les chaudières d'en bas, en ce moment.
Mais elle a mal fini, parce qu'il paraît que c'était la petite amie de Staline, mais c'est pas sûr que Staline l'avait mise parce qu'elle était juive et qu'il était sûr qu'elle allait serrer la vis des orthodoxes roumains. Puis finalement, les Roumains nous disent maintenant que c'était une espionne et qu'elle a été fusillée en Union soviétique. Alors, est-ce qu'elle a été fusillée après la mort de Staline? J'en sais trop rien. Moi, j'ai connu la Roumanie à l'époque de Gheorghiu Dej. Et il y avait marqué à la frontière Traiasca Republica Populare Romania avec un I pour Romania, ce qui était une réforme orthographique imposée par le vainqueur soviétique. D'où nous venons d'ailleurs d'entendre avec d'autres paroles la mélodie, c'est le chant des partisans qui a également été soviétique. Donc les Roumains, s'il y en a qui écoutent cette émission, j'espère qu'ils ont fermé de terreur en disant ça y est, on va encore nous parler de l'armée rouge. Finalement, j'ai obtenu un visa exceptionnellement en 1960. Arguant que j'étais en Hongrie, que j'allais en Bulgarie. Alors le type s'est dit, bah effectivement, je suis obligé de vous donner un transit. Bon, mais je vais vous parler maintenant de ces Pâques roumaines, car évidemment, ça fait longtemps que je vis en Roumanie. Alors, d'abord, l'organisation des Pâques orthodoxes, mais c'est comme on n'a pas de musique, on est obligé de faire de la théorie, on ne va pas faire de la théologie, mais du moins du rituel. Le mercredi, ça commence à 17h30. Le jeudi saint, pour les appeler par leur nom qu'on leur donne ici, le matin, il y a un chœur byzantin. C'est pas toujours pareil. C'est pas pareil à Belgrade ni à Sofia. Mais grosso modo, il y a une organisation de la semaine sainte orthodoxe qui est assez, on va dire, standardisée. Le jeudi soir, on sort la croix par la porte royale. C'est donc le patriarche ou un évêque qui fait ça. Et on la met parmi les fidèles. Et pour ceux d'entre vous qui connaissaient les rites orthodoxes, le vendredi, On dispose sur ce qu'a été dans les premiers siècles du christianisme le béma. Le béma, c'est le milieu des fidèles. C'est là, comme vous savez, que chez les orthodoxes se passe une partie de la liturgie épiscopale au milieu des fidèles et non en face. Alors, la table est fleurie et les fidèles doivent passer sous le tombeau du Christ. Moi, j'étais tellement occupé avec ma vidéo, vous voyez comme en plus j'ai une vidéo ce coup-ci, que je ne suis pas passé sous le tombeau du Christ. Je le regrette, puisque tout le monde doit le faire, pourquoi ne pas le faire? On embrasse la table. Alors, chez les Roumains, langue romane, il y a des cantiques qu'il n'y a pas dans les langues slaves. Des cantiques, parce que dans les langues romanes, comme l'italien, le français, on peut chanter des cantiques du fait que les mots se terminent par des voyelles. Premier chant, 73 couplets. Je dois dire, j'ai trouvé ça long, mais il faut bien raconter la passion du Christ. Deuxième chant, 60 couplets. Troisième chant, 43 couplets. À la fin, les gens se partagent les fleurs. J'appelle ça la bataille des fleurs. Je prie de m'excuser de comparer ça au festival de Cannes, du moins au carnaval de Cannes.
De Nice.
De Nice.
Nice, pardon. Nice. Cannes, c'est le cinéma. Nice, c'est le carnaval. Pardon, je confondais. Tout va mal. Le patriarche et sa suite sortent le vendredi soir avec, sous un baldaquin, des choses qui symbolisent, puisque vous savez, c'est surtout chez les Grecs que c'est qu'on observe mieux, le Christ est sorti de l'église et on l'enterre dehors. Mais suivant les rites, ça change un peu. Je l'ai vu faire chez les Chaldéens, j'ai même vu un évêque chaldéen à Istanbul dévisser le Christ, parce que chez les Chaldéens, ils ont des Christ comme en Occident, en relief, le dévisser avec un tournevis et le mettre sur une espèce de petit catafalque. Le samedi, contrairement aux catholiques, mais ce n'est pas par opposition, il y a une liturgie du samedi matin. Elle est d'ailleurs très belle et je l'ai prise en vidéo, mais à quoi cela sert-il de dire ça à nos auditeurs? Bon, je vous fais grâce du rite des œufs colorés, mais j'ai remarqué une chose quand même à Bucarest, qui se remarque paraît-il également en Irlande, c'est que dans les bus et les tramways de Bucarest, chaque fois qu'on passe devant une église, il y a la moitié des gens qui se signent. Et il y a beaucoup d'églises à Bucarest. Bon, on arrive au samedi soir, 23 heures des lectures faites par des diacres, et puis 0 heure, le bourdon, je ne sais pas si on peut appeler une cloche orthodoxe bourdon, enfin la plus basse des cloches se met à sonner. On fait 3 tours de la cathédrale. Alors, dans le sens dans lequel vous nous donnez la parole aujourd'hui, le sens des processions, qui est l'inverse des aiguilles d'une montre. Et comme vous savez, c'est précédé, non pas par des petites clochettes, mais par une planche que l'on tape. Et c'est caractéristique des processions orthodoxes. Il y a devant une religieuse ou un moine ou un diacre qui fait ta 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 ta. C'est comme ça. C'est le passage. Là-dessus, à Bucarest, l'office de la résurrection se fait dehors. Donc, je dois dire, j'ai grelotté cette année. Enfin, je ne m'étais pas insuffisamment couvert. Et ça doit se terminer. Il y a une sorte d'office particulier pour la résurrection. Et cela se termine quand le Christ dit 3 fois. Alors, en roumain, c'est Christos enviat. Et la foule répond à des valades qu'à une viat. Le Christ est ressuscité. Il est vrai qu'il est ressuscité. Voilà. Alors, la liturgie roumaine se fait en langue roumaine depuis quelque temps, mais elle fut autrefois en slavon. Et la liturgie moldave, qui est un morceau de la Roumanie, enfin, disputée entre la Moldavie et l'Ukraine, la liturgie moldave est en slavon. Alors, le dimanche, évidemment...
Mais, pardon,
allez-y.
Je trouve que vous n'avez pas rendu justice à la solennité extraordinaire du moment où la procession étant faite, on frappe à la porte. Je ne sais pas si ça passe comme ça en Roumanie, mais dans l'orthodoxie russe, le célébrant frappe à la porte de l'église. Et on a l'impression que les coups ébranlent non seulement la porte de l'église, mais toute l'église. On a vraiment l'impression que c'est le Christ qui frappe pour entrer.
Oui.
Et il frappe 3 fois pour demander l'ouverture de la porte de l'église. Alors, quand on reste dans l'église, il y a très peu de gens qui restent dans l'église. Tout le monde sort pour la procession. Mais comment il m'est arrivé souvent d'être dans l'église, dans le noir à peu près complet? Et c'est une impression indicible, cette espèce de résonnement, de résonance des coups sur la porte. On a vraiment l'impression que le Christ est là, qui frappe en disant « Maintenant, laissez-moi entrer ». Et les portes s'ouvrent. Et alors là, il y a l'explosion de joie de la résurrection.
Alors ça, je l'ai vécu dans des circonstances assez tragiques, encore que ça me fasse traiter de néo-nazi. Je suis allé au Kosovo pour les Pâques 2000 et le patriarche de Serbie qui est né en 1913 avec la deuxième guerre des Balkans est arrivé évidemment entre deux blindés italiens puisque à l'époque ça dure encore maintenant mais c'est moindre à l'époque on tirait sur les Serbes, on mettait le feu à leur maison mais rassurez-vous, nous remboursons les maisons occupées par les Albanais sont restaurées à nos frais. C'est-à-dire, ils y mettent le feu pour chasser les Serbes, et après, nous payons la restauration de la maison. J'ai vu le programme, 300 000 maisons. C'est pas mal. Pour un pays. Ben, en fait, la France qui veut loger les sans-logis, voilà. Tiens, nous logeons les Albanais.
Ah,
ouais,
il y aura du travail pour les chômeurs, là.
Alors, nous avons fait le tour de l'église, évidemment, sous protection, parce que la patriarchie, comme ils disent, serbe, est à Pech. Et elle est sous le feu de toutes les collines qui sont alentour. Les Italiens avaient donc des canons, ils savaient quand même de quoi se défendre. Et alors là, le patriarche serbe a suivi le rituel, et comme j'avais suivi sa procession, je me trouvais dehors. On frappe et finalement on rentre. Mais alors pour les Roumains cette année, je suis resté à l'intérieur de l'église parce que j'avais une excellente place pour la vidéo, et donc j'ai pris la procession au travers du vitrail, je l'ai vu passer dehors. Bon, là-dessus... ça finit à 3h du matin. Je peux dire que cette année, il a fait froid. Les gens se séparent. Bien entendu, on rentre chez soi avec des cierges allumés, comme les Grecs. Les Grecs, même à Paris, rentrent chez eux avec les cierges allumés. Les Russes, je n'ai pas remarqué. Les Russes ne rentrent pas chez eux. Je ne les ai pas vus rentrer avec les cierges allumés. Mais ils rallument.
Ils tournaient autour pour empêcher la flamme de s'éteindre, le vent d'éteindre la flamme. Oui.
Voilà. Et le dimanche à 12h, suivant la tradition roumaine, car ça peut être à d'autres heures chez les autres, on lit les évangiles. Alors, ils ont été lus en hébreu, en latin, en français, en italien, en allemand et en anglais. C'est pas trop mal. Voilà comment ça s'est vécu. Le patriarche est un homme aimable. Il parle français, mais évidemment, un Roumain de 85 ans, ça parle toujours français.
Bien sûr, les Roumains parlent français. D'ailleurs, Roumain n'est pas une nationalité, c'est une profession. C'est mon ami le peintre Sergio Manoliu qui disait ça. Roumain, c'est pas une nationalité, c'est une profession. Tout le monde le sait.
Sont des gens romantiques.
Admirable peintre.
Bismarck, qui devait être cocu, avait dit qu'il fallait pas avoir de femme en Roumanie. Et c'est parce qu'il a perdu.
Je ne peux pas vous répondre. Là, je n'ai pas l'expérience suffisante. Merci, Jean-Claude. Il faudra en revenir, alors, avec un...
Oui, je reviendrai avec tout ce qu'il faut, avec l'artillerie.
Quel que soit le nom qu'on lui donne. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va, puisqu'on a un peu mis de l'encens dans ce studio, on va voir si... la pensée de Bertrand Hakin résiste à ça. Moi, je me pose une question sur ça. Le livre de Bertrand Hakin, je l'ai dit, qui s'appelle « L'Église de Pierre, une perversion », c'est un livre d'une lecture qui ne vous laisse pas intact. Hein. Bertrand prend la peine de dire dès le préambule du livre que ceux qui ont la foi du charbonnier, dont je m'honore de faire partie, peuvent passer leur chemin s'ils ont peur de ramasser des choses qui vont les troubler. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais mis un peu en porte-à-faux, un peu mal à l'aise. Mais la question que je me suis posée, c'est de savoir d'où venait ce malaise. Parce qu'il y a deux possibilités, vous comprenez? Ça, c'est un livre important. C'est un livre qui dit des choses graves sur une question qui est absolument centrale, la question de la foi, de l'exercice de la foi, de la vérité du message de l'Église. Et alors, il y a deux possibilités. Ou ce que dit Bertrand Hakin est vrai, et là, on comprend qu'en bas, il y en a un qui s'agite et qui vous rend malade pour vous empêcher d'aller plus loin dans la lecture. Où ce que dit Bertrand Hakin n'est pas vrai, et on se dit qu'à ce moment-là, c'est d'en haut que viennent les avertissements en disant que passe ton chemin, ne t'arrête pas à ce livre-là. En tout cas, j'ai pas eu la force de dépasser le deuxième tiers, parce que j'étais, non pas que j'ai quoi que ce soit de précis, quelques reproches que ce soit formulés sur la méthode. La méthode, elle est incontestable, vous apportez des textes et vous donnez votre interprétation de ces textes. D'abord, vous dites, je vais vous donner la parole, bien entendu, mais je présente la chose à ma sauce, comme ça vous pourrez après dire si j'ai compris ou pas. D'abord, vous dites, les textes, ce texte-là, qui est le texte officiel de l'Église, n'est pas authentique. Moi, je suis allé aux sources et j'ai trouvé ce texte-ci, qui lui est authentique, et voilà des différences. Il est dit ça par l'Église. Il est dit ceci dans le texte authentique. Pourquoi cette modification existe-t-elle? Quel est son sens? Quel est son objet? Quelle est son utilité? Quelles sont ses visées? Et puis ensuite, vous tirez des conclusions vous proposez des explications, vous proposez des conclusions sur le sens que vous avez trouvé à ce travail. Bon, ça nécessite une forte participation du lecteur. Ça nécessite d'abord un acte de confiance, parce que vous évoquez par exemple des incunables que vous êtes allé consulter en Bulgarie. Alors, moi je ne les ai pas vus. D'ailleurs, quand bien même les aurais-je vus, étant donné qu'ils sont écrits dans une langue dont j'ignore le premier mot, ben, j'aurais pas eu plus d'avantages pour ça. En tout cas, vous dites, voilà ce que dit le texte original, on est obligé de vous faire confiance, mais ça, c'est le cas de tous les voyageurs, on est obligé à un moment de se fier à ce qu'ils vous disent. Et par exemple, Marco Polo prétendait qu'il avait croisé sur la route de son tour du monde des hommes à tête de chien, on ne les a jamais retrouvés derrière, mais il y a quand même des gens qui ont cru pendant des années que c'était la vérité. Il faut voir aucune allusion à... Bon, je ne mets pas en cause l'origine de vos travaux. Mais simplement, il y a un moment où, à force de suivre et de tenter de vous suivre dans vos conclusions, on sent que il faut faire un choix. Quoi. Ou on a la force de trouver les arguments contre, ou on craint de ne pas avoir la force et d'être troublé trop gravement, et on arrête sa lecture. Voilà. Moi, arrivé au deuxième tiers, j'ai dit, maintenant, ça suffit. Et puis, je me suis tourné vers la Vierge de Guadeloupe, dont on venait de m'envoyer des photos extraordinaires diffusées par le docteur Dickès, et qui sont les photos d'un miracle survenu le 24 avril dernier. Où est apparue dans le sein de la Vierge une lumière qui vient du tableau, du tableau, et non pas de l'extérieur. Et cette lumière prend exactement la forme d'un fœtus. Et ce miracle est intervenu au moment même où la mairie de Mexico prenait la décision de libéraliser l'avortement sur demande dans la ville. Donc je dois dire que ça, c'est, quand j'avais ces deux, votre livre d'une part et ce document entre les mains, j'ai quand même préféré me tourner vers la Vierge de Guadeloupe parce que ça me paraît d'une importance considérable. Je ne dis pas que c'est contradictoire avec vos propos.
J'en parle, la Vierge de Guadeloupe.
Oui. Alors voilà, j'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, je vous donne la parole pour dire vous ce que vous...
Ça donne envie simplement, la façon dont vous avez exposé tout ça, j'attends monsieur avec impatience, ça donne envie de lire le livre quand même. Je ne sais pas si j'irai aussi loin que vous, mais ça donne envie de le lire.
Or, alors, je crois que je vous dois des explications. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit bien... J'ai commencé mon livre, comme vous l'avez vu, d'abord par un titre qui est provocateur, l'Église de Pierre, une opération de l'esprit, mais il y a un sous-titre qui est très important, c'est j'ai une considération hérétique à l'intention de ceux qui sont en panne d'espérance. Et j'ai commencé mon livre, parce que je savais de quoi j'allais parler, par un avertissement supplique. Vous l'avez cité, mais je précise. Où j'ai cité Matthieu, heureux les cœurs purs. Et vous êtes, vous, Serge de Becquet, comme sûrement la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie, des cœurs purs. Je me cite dès lors, pour l'amour du ciel, ces cœurs purs, qu'ils ne poursuivent pas la lecture de cet ouvrage au-delà de cet avertissement. Ils ajoutaient même, c'est l'auteur qui les en prévient, et il est mieux placé que personne.
C'est quand même assez rare un auteur qui dit...
Je ne sais pas de la... Je ne sais rien, vous allez comprendre. Mais après j'ai ajouté, mais il y a aussi les autres. Celui-là, Radio Courtoisie, mais vous, Radio Courtoisie, j'allais dire, vous avez la grâce, vous êtes sauvés.
Ouf.
Mais
on peut espérer, oui.
Je voudrais vous faire en parlant aux autres, et j'en côtoie beaucoup. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui m'a inspiré ce livre? dans toutes les couches de la société, vous savez que je n'habite pas la France, j'habite l'Espagne, mais enfin, ce n'est pas, ça fait vraiment mal. Je suis horrifié autour de moi. Et plus on monte dans les milieux sociaux, il n'y a plus personne qui ne croit en rien. Comme je dis, on fréquente les clubs de golf, les clubs de bridge, les trucs, etc. Viens, tout est vide. La société qui monte, le gouvernement, ça ne croit strictement en rien. Et, pour vous expliquer pour qui j'ai fait mon livre, il y a eu une enquête CSA La Croix, de décembre 2004. Je la cite dans mon livre. Et d'ici 2004, il s'est passé 3 ans. Qu'il dit qu'en France, la fille aînée de l'Église, sur près de 65 millions d'habitants, il y a 36 millions de baptisés. Mais que sur 36 millions de baptisés, il y a 7% de pratiquants. Il y avait, c'est-à-dire qu'il y a en France des gens comme vous, il y en a 2 millions et demi. Eh bien moi, c'est pas pour ces 2 millions et demi que j'ai écrit ce livre, c'est pour la France, c'est pour les 62 autres millions dont j'ai côtoyé des cas qui sont vraiment désespérés, qui n'ont plus aucune foi en rien, mais ça leur crée des sacrés problèmes, parce que avec cette civilisation de consommation, ce rationalisme... Et alors, je vais terminer mon premier. Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre? Pourquoi je me suis inspiré? Est-ce que vous êtes bien conscient, je l'ai remis dans mon livre, de ce qu'a dit le cardinal Ratzinger, quelques semaines avant d'être élu pape? Il ne savait pas qu'il serait élu pape. Moi, je crois qu'il le savait, parce que le cardinal Ratzinger, dont Benoît XVI, est un homme exceptionnel. Alors que Jean-Paul II agonisait, le soir du vendredi saint 2005, c'est lui qui en général, c'était le pape qui a parlé. Et voilà ce qu'a dit le cardinal Ratzinger, parce qu'il savait qu'étant élu, il ne pourrait plus le dire en tant que pape. Et je vous lis mot à mot, croyez-moi, je ne galvaude rien dans ce que j'écris, voilà les mots du cardinal Ratzinger. Ne devrions-nous pas réfléchir à ce que doit souffrir le Christ dans sa propre Église? Combien de fois n'a-t-on pas déformé et galvaudé sa parole? Que de souillures dans l'Église, et particulièrement parmi ceux qui, par leur sacerdoce, devraient lui appartenir totalement? Combien d'arrogance, combien de suffisance? La trahison des disciples, la réception indigne de son corps et de son sang, sont sûrement la plus grande souffrance du Rédempteur. Et pour finir, souvent Seigneur, SOS, hein, ton Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts. Et l'Église est une barque qui est prête à couler, qui prend l'eau de toutes parts, parce que, continuation à ce que j'avais écrit dans ce soir l'Apocalypse, si on y croit l'Apocalypse, c'est bien le Christ qui a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et qu'est-ce qu'il a dit, Saint Paul? Ce ne se produira pas avant qu'il y ait l'apostasie. Et nous y sommes en pleine apostasie. Et j'ai été effaré moi-même. Bon, il y a cet évangile de Saint Jean que j'ai trouvé à Sophia, mais ça m'est revenu après, de voir la manipulation des textes. Je pense à un des textes fondateur spirituel du christianisme, qui est le prologue de l'évangile de Saint Jean. Et je l'ai analysé dans mon livre, mais il y a une phrase. Quand on voit, et on nous fait annoncer, mais c'est que c'était vraiment depuis des siècles, et le Verbe était Dieu. Alors que dans le texte grec et le texte latin, il est écrit, et Dieu était le Verbe, ça veut pas du tout dire la même chose. Et j'ai commencé mon livre par le problème de la résurrection de la chair, mais où l'Église a-t-elle vu que ni le Christ, ni les apôtres, ni Saint Paul disait qu'il y avait une résurrection possible de la chair, alors que même Saint Paul dit, je le lis là parce que je l'ai pris, parce que je savais qu'à cette émission, je veux pas quand même être assailli par des gens qui vont me dire, mais monsieur, vous êtes, oui, je suis un hérétique, mais je suis un hérétique pour pas être un apostat, et nous sommes en temps d'apostasie. Quand Saint Paul dit dans 1 Corinthiens, verset 35 à 50, mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent? Avec quel corps reviennent-ils? On est semé corps psychique? On ressuscite corps spirituel. Je l'affirme, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Mais tout ceci, la résurrection de la chair encore dans la dernière catime, ça fait fuir beaucoup de monde. Moi, j'essaie de convertir, enfin, à ma façon, et des gens, même certains, en Espagne, je pense, un, qui était ministre il y a encore 3 ans, mais il me dit, mais tu crois encore à ces conneries, à ces mondieuseries? Je lui dis, mais c'est pas des conneries, des mondieuseries, on vous les a mis comme, on a déspiritualisé, on a créé quelque chose qui est une question de politico-social, mais l'esprit là-dedans, et je suis désolé, et là je vais sucer qu'il y a des gens, mais il faut lire mon livre tranquillement. Serge, vous auriez pas dû le lire, je vous l'avais mis pour vous. Mais bon, Radio Courtoisie, il fallait
non,
le
lire. Non, mais j'ai tenu le coup quand même. Mais...
C'est vrai, vous allez vous dire que je m'attaque à la Trinité. Mais c'est une, la Trinité, c'est le même problème que Marie, Mère de Dieu, le Théotokos, c'est un forban excusez-moi, c'est le Cyril d'Alexandrie. Et je donne une étoile dans mon livre qui est à la base de tout ça. Avec tout, on a, mais c'est incroyable. Mais il reste plus que 2,5 millions de croyants en France sur 60 millions d'habitants. C'est pareil en Espagne où je suis. Et actuellement, le pape, je crois, prépare son voyage, Benoît XVI, au Brésil. Et je lisais dans l'avion aujourd'hui en venant que comme les évangélistes, bon, c'était des chrétiens aussi, ont vraiment mis la main dessus, l'église catholique là-bas est en train d'employer, donc ils leur font chanter du rock, de la bossa nova, mais on allait arriver là. C'est ça le message du Christ transmis. On n'est pas nécessairement immortel. L'immortalité, je me souviens, je voyais une phrase que j'ai mise dans mon livre de Lactance qui disait, l'homme n'est pas né immortel. Il se le gagne, l'immortalité. C'est une spiritualisation. Quand j'ai vu qu'il y a un roi de France qui a dû mettre, par exemple, demander la permission au pape, je le sais dans mon livre, que pour pouvoir diviser son être en trois parties, corps, âme et esprit, il fallait une autorisation papale, parce que l'Église ne l'admet toujours pas. On a un corps et une âme. Maintenant, on parle d'une âme spirituelle. Ça ne veut rien dire. J'ai lu Saint-Jean de la Croix, etc. Et tout. Et alors, pour cette désaffection, elle correspond à quelque chose.
En fait, ce que vous voulez dire, c'est que...
Oui.
Une des raisons de la perte de la foi, et ça c'est bien ce que vous expliquez dans votre livre, une des raisons de la perte de la foi dans la société laïque, c'est un ensemble de belles histoires qu'on a racontées à des gens un peu naïfs à l'époque, en espérant que ça allait les attirer dans le système, et que les gens devenant de plus en plus, non pas intelligents, mais de plus en plus perceptif, de plus en plus attentif ou de plus en plus à l'écoute, on finit par se dire mais enfin oui, ça tient pas debout, c'est vrai que la résurrection de la chair, c'est difficile à croire et tout. Et alors si l'Église nous raconte cette impossibilité, alors tout le reste est faux aussi. Et donc il faut revenir à l'authenticité première des textes pour regagner la foi, pour rendre de nouveau la foi possible. C'est ça que vous voulez dire,
Serge? Vous savez que je me suis attaqué, j'ai essayé de démystifier beaucoup, notamment la notion de Marie, Mère de Dieu, ou même de l'Immaculée Conception. On va me dire, tu vois, mais l'Immaculée Conception, les orthodoxes, ils ont pas suivi l'Église catholique, ils ont raison. On a fait, et Saint Bernard a dit, Saint Bernard s'est cassé les dents, Saint Thomas d'Aquin se sont opposés à la fête de l'Immaculée Conception, et je lis là, tiens, je vous lis par exemple une phrase que j'ai prise, parce que c'est important quand même, l'Immaculée Conception. Saint Bernard, lorsque les chanoines de l'église de Lyon, parce qu'à l'époque ils avaient parole d'évangile, ont décidé de faire une fête de l'Immaculée Conception. Attention, Immaculée Conception, pris dans son sens pervers. Marie Immaculée, non pas qu'elle est conçue d'une façon immaculée le Christ, ça on est bien d'accord. Les orthodoxes, ils sont... Saint Bernard, qui était quand même là, il avait l'oreille des papes et des empereurs, il a dit, je vois la superstition s'introduire dans les esprits avertis et gagner l'Église. Et comme ça avait encore fait du mal, Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, un siècle plus tard, il ajoute, si Marie avait été conçue sans péché, elle n'aurait pas eu besoin d'être rachetée par Jésus-Christ. Et un siècle plus tard, le pape Clément VI, qui voyait les ravages que ça faisait, il dit, la Vierge a été coupable de péché originel puisqu'elle a été conçue par l'union charnelle de l'homme et de la femme. Et enfin, et je le mets parce qu'il me l'a fait, l'abbé Pierre. C'est pas que je prenne l'abbé Pierre pour un truc et tout, mais je le cite dans mon livre, dans son Mon Dieu pourquoi en 2005. Mais il a raison. Le cardinal, l'ex-évêque de Paris, il a 90 ans, on lui fait dire n'importe quoi. Mais il a dit un truc qui est triste. Il dit, je suis impressionné par l'accumulation de dogmes concernant Marie, car on peut se demander pourquoi cela devient de l'idolâtrie. Marie prendait-elle la place des déesses de l'Antiquité? Eh oui, parce que le Théotokos, Saint Cyril d'Alexandrie a réussi à par la sœur de l'empereur à convaincre que le concile qui a condamné Nestorius se tienne à Éphèse, qui était, et non pas Constantinople, qui était le siège où on adorait païennement la Vierge Mère. Autrement dit, si belle. Et tout a marché, on a récupéré depuis lors, mais on ne sait plus trop. Et ça n'a rien. Et quand, lorsque la Vierge, je sais pas moi, vous êtes parisien, vous êtes russe d'origine, moi je suis gascon. Mais lorsque la Vierge est apparue à Lourdes et qu'elle a dit « Io soyera immaculada conceptio », elle n'a pas dit « Io soyera immaculada concebud ». Parce que si elle avait été l'immaculée conçue, ce qu'a voulu nous faire en passer l'Église catholique, eh bien, elle aurait dit « concebud ». L'immaculada conceptio, c'est celle qui conçoit et non pas celle qui est conçue. Les orthodoxes, d'ailleurs... Non mais où est-ce qu'on est allé chercher tout ça? Je crois que quand je parle de perversion...
Par exemple, si, en vous suivant, quel dessin se cacherait derrière ça?
Je sais pas. Le dessin qui se cachait derrière ça, c'est que je crois que depuis environ le 4e ou le 5e siècle, c'est pour ça que j'ai mis en prologue de mon livre une phrase du Christ, qui est passée sous silence d'ailleurs, à Pierre. Lorsqu'il annonce à Pierre qu'il va, il doit aller maintenant à la fin de sa vie, monter à Jérusalem, subir la passion et tout, on dit les validis. Pierre le Morigène lui dit non Seigneur, tu vas pas faire ça.
Mais
et
passe
le Christ
derrière moi Satan.
Passe derrière moi Satan. Je crois que Satan, on ne prête qu'aux riches, il a infiltré dès le départ. La division, Satan c'est le diviseur. Nous, on dit, comme je dis, je le répète dans mon livre, nous les catholiques, on nous fait dire dans le truc, délivre-nous du mal. Les protestants ont raison, c'est pas du mal quand vous prenez le grec, c'est du malin, c'est une personnification. Le mal, on sait plus ce que c'est le mal, mais c'est le malin. C'est une personne, une entité extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que des querelles politiques, des querelles sociales, des questions avec le pape, je parle, bon, Constantin, là, le Christ, j'en sais rien. Mais il fallait, si nous voulions arriver à la fin des temps, à cette apostasie qui a été... Et puis, je sais pas, moi j'ai analysé, je ne veux pas faire un livre, hein, toutes les prophéties de Malachi sur les derniers papes. Et j'ai passé en cherchant, en regardant. Et moi, il ne s'est pas trompé souvent. Or, si on croit Malachi... Le pape actuel, c'est le dernier. Enfin, il y a prière le Romain, mais c'est l'apostasie. Le pape de la parousie, le retour du Christ. Et c'est là où, quand je reprenais ce que disait le cardinal Ratzinger le vendredi saint, Seigneur, Seigneur, ton église est une branche prête à couler, une barque qui prend l'eau de toutes parts. Comme le Christ a dit, et les puissances de Satan ne pourront pas, il n'y a que lui. C'est pas l'église qui va sortir de là. Il n'y a que lui qui peut la sortir. Donc, ça serait le symbole que nous sommes à la fin. Et comme moi, je vois autour de moi des gens, je vais arrêter, Serge, parce que des gens désespérés, dans des niveaux qui me disent, mais essayez de nous transmettre ceci. J'ai essayé d'écrire, je répète, pour ceux qui sont en panne d'espérance, et non pas pour des chrétiens fondamentaux, mais je répète, en France, 2,5 millions dans la fine église, et puis au niveau de la planète, c'est toute confession chrétienne, catholiques, protestants, orthodoxes réunis, on représente 4% de la planète, rien du tout. Pour quelque chose d'univers, il s'est passé quelque chose. Et il fallait que ce soit ainsi. Sinon, il n'y aurait pas d'apocalypse, il n'y aurait pas de retour du Christ, et on serait tous bons et gentils. Or, je me souviens que Hippocrate a dit que l'homme entier était une grande maladie. Et nous sommes des malades, des hémiplégiques. Il fallait que ce soit ainsi.
Il y a dans le début de votre livre, il y a quelque chose qui est très frappant. Vous faites une exégèse de la phrase du Christ, la phrase que le Christ dit à Saint Pierre, où il lui dit à présent tu es jeune et tu vas où tu veux, etc. Mais viendra le jour où tu écarteras les bras, un autre te passera ta ceinture et te conduira où tu ne veux pas aller. Et vous, on y voit, on comprend quand on avance dans le livre que dans cette scène, dans cette image, vous voyez la prophétie de, non pas de ce qui va arriver à Pierre, puisque ça n'est pas arrivé à Pierre, semble-t-il, oui. mais de ce qui va arriver à son Église. Alors effectivement, ce que vous nous dites avec ce livre, c'est que quelqu'un s'est emparé de la ceinture, et avec tous les symboles que ça représente, et a fait écarter les bras à l'Église, l'a ceinturée et l'a conduite parce qu'elle est aveugle là où elle ne veut pas aller. Et vous dites, tout ça, ça ne correspond pas du tout à la vie de Pierre, puisque ce n'est pas comme ça que ça s'est terminé.
Il y a quand même dans le message du Christ, comme l'a dit fort bien d'ailleurs Saint Jean de la Croix, un message symbolique qui était, bon, au départ... Il fallait que l'humanité avance, on n'était pas en avant-tout. C'est comme, actuellement, bon, je veux bien, moi je mets en cause la divinité du Christ. Mais c'est pas moi qui la mets en cause. Quand je prends, par exemple, lorsque le Christ, dans Marc 10-18, dit au patricien, au fils du patricien, qui lui dit, qu'il le remercie, lui dit que tu es bon, et le Christ lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Le Christ lui-même dit qu'il n'est pas Dieu, parce que si le Christ était Dieu, comme on dit, quel exemple pour les hommes? Dieu, ça peut pas être un exemple pour les hommes. C'est-à-dire, un homme divinisé, oui, mais Dieu, on ne peut jamais atteindre la perfection de Dieu, etc. Alors, tout ça, accumulé, ça fait beaucoup de choses. Ce qui fait qu'actuellement, il n'y a qu'un résultat. C'est que l'Occident, et en plus, cette culture de mondialisme occidental, c'est elle qui est en train de paganiser le reste des civilisations. La civilisation de consommation, la globalisation, elle apporte avec elle un athéisme. Et cette notion, dans mon titre, qui est provocateur, mais autant où nous en sommes, il faut provoquer. L'Église de Pierre est une perversion de l'esprit. Le terme n'est même pas de moi. C'est un père, le père François Brune, qui a écrit un livre magnifique sur la vie de la Vierge de Guadeloupe, qui fait des recherches doux, qui a écrit dans son gros livre, qui est une dizaine d'années, Pour que l'homme devienne Dieu, l'enseignement que transmet l'Église, est une perversion de l'enseignement christique. Pour moi, je l'ai pris chez lui.
Mais il n'a quand même pas mis en cause la divinité du Christ.
Mais moi, je vais plus loin.
Il n'a pas dit
non,
ça.
Non, pas, attendez. Moi, je ne vais pas plus loin, madame. En fonction de mes propres idées, je suis allé chercher les textes. Quand je vois le tripatouillage du prologue de l'évangile de Jean, ou même encore dernièrement, il y a 10 ans, la Bible de Jérusalem a remanipulé. Mais pourquoi manipuler les textes continuellement? Alors, je ne sais pas. Pour ceux qui ont la foi du charbonnier, mais comme je l'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit pour les canards sauvages. Foi du charbonnier, je comprends ça, je dis, tu n'aurais pas dû lire ce livre, vous n'aurez pas dû lire ce livre, bon, mais vous l'avez lu, mais c'est pas...
Enfin, je pense qu'il y en a... Oui, Jean-Claude Jabrien.
Je voudrais juste intervenir, puisque je m'occupe beaucoup des chrétiens d'Orient mésopotamien et araméophone, je voudrais intervenir à propos de Nestorius. On dit, je dis bien on dit, car je n'ai jamais consulté aucun texte, trop bon, Nestorius aurait craint que la conversion des païens se fît à l'époque vers une vierge qui aurait supplanté les déesses païennes. Et il paraît que le point de vue de Nestorius, je dis bien il paraît, car je ne suis pas spécialiste de la question, Nestorius craignait précisément la transformation de Marie, mère du Christ ou mère de Dieu, moi je n'ai pas à intervenir là-dedans, ça ne me regarde pas, mais il avait peur qu'on en fît une déesse. Et c'est ce qu'on voit quelquefois en Espagne ou en Italie, des maris pleines de bijoux. Ce sont des maris païennes. Mais enfin, cela étant, laissons les gens aimer leurs maris pleines de bijoux.
Pour sa défense, il a envoyé au pape de Rome, au pape romain, qui d'ailleurs est mort dans les 2 mois après, un truc en disant dans son épargne, il a dit « Comment Dieu pourrait-il avoir une mère ?» La question est sans réponse. Oui, non, mais comment Dieu, mais Dieu.
Ben pour s'incarner,
c'est un monsieur avec une barbe, on en est encore aux images de l'Ancien Testament, c'est peut-être autre chose, Dieu. On en est là et on n'a rien résolu. Parce que je le répète, 2000 ans après, nous sommes ici en France, dans la fille aînée de l'Église, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête de la Croix, 2,5 millions de pratiquants, c'était en 2004, à mon avis, il n'y en a pas plus de 2 millions. Chaque fois, moins, ça baisse.
Je pense que la Croix l'a écrit avec jubilation.
C'est de la statistique, là.
En tout cas, je ne peux que répéter ce que j'ai dit. C'est un livre qui est fait avec honnêteté.
Sans
mauvaise pensée, sans arrière-pensée mauvaise, voilà. Le lira qui veut, ne le lira pas ceux qui ne veulent pas. De Beckett égale gnose égale orgueil. Démangeaison de nouveautés à tout prix. Il nous faut du nouveau, n'en fit-il plus au monde. Les vieilles hérésies recuites présentées comme des nouveautés. Mais, cher monsieur, si vous êtes bien dans votre vieille nouveauté, parce que tout est bien, tout est une nouveauté un jour.
Il y avait longtemps qu'on l'a pas
prononcé. Il y a les autres.
Vous ne m'empêcherez pas, en tout cas, de continuer à donner. Oui. À donner la parole à ceux qui ont quelque chose à dire, même si je suis pas d'accord, ce qui est le cas aujourd'hui, mais je vois pas, j'ai jamais pensé que le silence, d'imposer le silence aux gens, évitait le débat, parce que le débat, il sort, quand il y a quelque chose à dire, ça finit toujours par se dire. Merci Bertrand Kerby, et je pense que les gens pourront, les auditeurs qui sont mécontents ou qui sont curieux, ou qui sont intéressés, pourront venir vous voir dimanche.
D'autant, mon cher Serge Beckett, que je ne suis qu'un porte-plume. Hein.
Oui, comme nous le sommes tous.
Un auditeur vous dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. La foi orthodoxe réfute tout à fait les propos alarmistes tenus. Voilà.
Mais non, c'est parce que le Christ reviendra. Et heureusement, parce que c'est Benoît XVI qui l'a dit, la barque prête à couler. C'est pas moi, hein. J'ai pris ces... Ça n'a pas
Où va Radio Courtoisie? Beckett invite des personnes qui détruisent l'Église catholique, ça ne va pas du tout. Alors, s'il suffit d'un discours de 20 minutes sur Radio Courtoisie pour décrire l'Église catholique,
je rendre hommage à Radio Courtoisie. Radio Courtoisie ne veut détruire aucune Église, et moi non plus.
Je crois que le problème, heureusement je l'ai dit au début de l'émission à propos d'autre chose, c'est que certains auditeurs ont tendance à entendre non pas ce qu'on dit, mais ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont décidé qu'ils entendraient dès le début. Alors là, évidemment, ça coupe court à toute discussion. Voilà, cette discussion, elle a quand même eu lieu, et puis elle aura lieu mieux dimanche si vous venez vous déplacer pour venir porter la contradiction à Bertrand Aquin. Faites-le.
Je viens armé ?
Non, je pense
non,
pas.
Les auditeurs viendront armés.
Les auditeurs viendront, j'espère, armés d'arguments pour vous faire savoir leur désaccord. Merci Bertrand. Et maintenant, je me tourne vers alors Madame Gourvennec, Nicole. Oui.
Bon, parce qu'on parle de ce jour-là. Savez-vous si Monsieur Raffard de Brienne sera à la fête de Radio Courtoisie?
Non, Daniel ne sera pas là, malheureusement, parce qu'il ne va pas bien. En revanche, il y aura un Raffard de Brienne au stand, qui est son propre fils, qui publie également des ouvrages aussi édités d'ailleurs par notre ami Benoît. Et notamment, il a publié tout récemment, si je ne me trompe pas, un petit livre sur la désinformation autour de la colonisation qui est tout à fait remarquable. Et il travaille très très bien aussi, et je serais très content de le voir. Il faut prier pour Daniel, qui est en mauvaise santé et qui vit un drame personnel terrible, c'est-à-dire que à la suite d'un accident vasculaire cérébral, je peux le dire, je crois, il a perdu l'usage de la parole, mais il est parfaitement lucide, mais il ne peut simplement plus communiquer, ce qui pour lui, qui était un bavard, invertébré, et en plus un manieur de la langue, virtuose et drôle et charmant et tout, c'est une tragédie. Ça me fait beaucoup de peine. Voilà. Madame Gourvennec, racontez-nous comment est née votre
association,
puisque association il y a.
Ben écoutez, moi, contrairement à monsieur, dont je ne partage pas les idées, mais je respecte les siennes, après tout, pourquoi pas. Pour moi, la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Pour moi, le Christ, c'est le Fils de Dieu. Bon, nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes d'accord sur un point. Vous œuvrez pour ceux qui sont en panne d'espérance. Moi aussi. Voilà. Mais j'y vais par des chemins différents. Tout simplement parce que moi, je ne discute pas, je vis au milieu de gens qui sont en panne d'espérance parce que tout simplement, ils sont dans la souffrance. Une souffrance absolue. La perte d'un enfant. C'est ce qui m'est arrivé. En 1989, nous avons perdu notre enfant Arnaud, 13 ans. Un enfant magnifique qui aimait Dieu, qui avait une certaine foi du charbonnier d'ailleurs, comme moi, nous aussi, nous l'avions. Il est parti en quelques secondes dans un accident. Ce fut un chemin très difficile. Mais le mot est même inapproprié. C'est le saut dans l'inconnu.
Vous n'avez pas eu la disparition de cet enfant qui était brillant.
D'abord,
il faut
brillant,
dire,
brillant,
on voit
pur.
Les photographies, il était beau.
Il avait tout.
Il était plein de santé,
plein de
vie.
On se disait parfois comment on a fait pour faire un enfant si beau, si réussi.
Vous n'avez pas eu un sentiment de révolte?
Pas du tout.
Même immédiatement après?
Pas du tout. De souffrance. Indescriptible. Mais de révolte, non. Mais je crois que là, c'est une grâce. Je ne sais pas pourquoi. Je suis incapable de le dire. Ni mon mari, ni moi, nous sommes révoltés. Nous avons souffert. Et puis, des choses se sont passées. Mais pour mieux vous les résumer, je crois que je vais vous lire le poème que j'ai fait, qui est dans mon livre, qui s'appelle « Dealer Mamoun », qui raconte cette formidable aventure qui a duré, donc, qui continue, de 1989 à maintenant. Ça s'appelle Dealer Mamoun. Pourquoi Dealer Mamoun? Pourquoi Mamoun? Parce que c'était le mot qu'utilisait Arnaud pour m'appeler. C'était une sorte de code secret entre nous, un code d'amour, Mamoun. Et donc, il m'a dit Dealer Mamoun. Eh bien, je vais vous dire ce qu'il m'a dit de vous dire, tout simplement. C'est un témoignage publié chez Lanor qui raconte non pas seulement l'aventure vécue par mon mari et moi, et nos deux autres fils. Arnaud était un petit dernier, mais une aventure qui, à l'heure actuelle, est vécue par des centaines et des milliers de gens à travers la France, à travers la Belgique, la Suisse, etc. Mais pour vous mieux faire comprendre, je vais tout simplement vous lire le poème que j'ai fait quelques temps après l'envol d'Arnaud, qui exprime le chemin parcouru. Je t'ai donné tout l'amour du monde, tu m'as rendu tout le bonheur du monde. Les fils de nos vies se sont entrecroisés, tissant pour nos rêves un royaume enchanté. Je t'ai aimé pour tes boucles folles. Je t'ai aimé pour tes rires en farandole. Je t'ai aimé pour ton sourire moqueur. Je t'ai aimé pour toi à toute heure. Mais le fil de ta vie s'est brisé, laissant le mien inutile et délaissé. Je t'ai pleuré. Je t'ai appelé. Je t'ai désiré, je t'ai retrouvé. Tu m'as donné tout l'amour de Dieu. J'ai vécu ton bonheur des cieux. Le fil de nos deux vies s'est renoué, reliant le visible à l'invisible, le dissible à l'indicible, la terre aux étoiles, l'opaque au voile. Je t'avais donné la vie éphémère, tu m'as offert la vie sans frontières. J'ai vu ton soleil éclatant, j'ai franchi le temps dans l'infi, dans la plénitude de l'infinitude.
Alors effectivement, ça résume l'expérience que vous avez eue, mais ça la résume, mais ça ne la décrit pas.
Non.
Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc, cet enfant a cet accident.
D'abord, la première chose, la certitude au fond de moi qu'il ne pouvait pas avoir disparu. Je l'aimais trop. L'amour ne peut pas mourir. L'amour est plus fort que la mort. Ça n'était pas possible. Certes, nous savons tous, j'ai sous les yeux la phrase de Jean Guiton, « Aller en tout du connu à l'inconnu ». Le connu, c'est que nous mourons tous. C'est notre destin. Mais l'inconnu, c'est où allons-nous? Alors, moi, j'ai toujours pensé que nous allions vers Dieu, parce que j'ai toujours cru en Dieu. Mais on me disait « Arnaud était un enfant merveilleux, il est en Dieu ». Mais tout ça, ça ne comble pas le silence. L'être que vous aimez, du jour au lendemain, n'est plus. C'est le silence. Je dois dire que chaque vendredi soir, vendredi saint, je ressens cette impression de silence à la mort du Christ. Et le dimanche, c'est différent. Donc, il y a une phrase qui vient à l'esprit de toute personne qui a perdu un être cher, même si elle a la foi, même si elle a une foi très grande, c'est « Où es-tu, toi que j'aime ?» Ça, c'est la quête que l'on porte en soi. Moi, je savais qu'Arnaud ne pouvait pas avoir disparu. Et très tôt, j'ai eu des signes, c'est-à-dire des sortes de nuages de couleurs différentes qui se faisaient, se défaisaient derrière mes paupières, même dans la journée. Et je me disais alors, Arnaud, quand j'ai la foi, je suis une chrétienne, une catholique, même une pratiquante, ben, ça ne m'apportait pas suffisamment. Il y a cette espèce de sentiment de vague, de séparation, de silence, qui est devenu mon enfant.
Je peux vous interrompre une seconde?
Oui.
Parce que je voudrais que les choses soient parfaitement claires. Est-ce qu'il est indiscret de vous demander quelle est votre formation?
Bon, j'ai la formation de base. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait comme tous les enfants de ma génération. Ah oui, ma formation de base. Oui, je suis licenciée en lettres, licenciée en langue. J'ai un diplôme de littérature américaine. Et j'étais professeur.
Alors, ça arrive de déplaire ce que je veux dire, mais vous n'êtes pas une primaire, vous n'êtes pas quelqu'un qui est porté au merveilleux, à la naïveté.
Ah non, pas du tout. Voilà, non, je crois qu'on peut le dire, et mon mari aussi, nous sommes des gens très équilibrés.
Et vous n'avez, avant cet événement, avant cette tragédie, est-ce que vous aviez déjà eu de porter de l'intérêt à des choses un peu bizarres?
Non.
Comme moi, par exemple, je me suis intéressé très jeune à des trucs curieux.
Non, pas du tout. Non.
Pas du tout.
Pas du tout. J'étais sûre que la vie ne s'arrêtait pas à la mort. J'ai toujours aimé un livre qui est un des best-sellers dans le monde, c'est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Mmh. Donc, le personnage du Petit Prince m'a toujours fasciné, il m'a toujours habité de manière normale, de manière poétique.
C'est ça, mais vous n'avez jamais pensé que ça pouvait être...
Mais quand il disait l'essentiel est invisible pour les yeux, je le croyais, j'en étais même convaincue de tout cela. Mais de là imaginer quoi que ce soit, non. Je vivais ma vie tranquillement, j'étais une mère heureuse, j'étais heureuse dans ma vie, j'avais trois enfants qui, dont les deux aînés faisaient de très bonnes études, le petit était ultra brillant. Donc pour moi... Bien sûr, nos enfants nous verraient mourir, mais c'était à nous de partir les premiers. Mais quand, brusquement, un enfant de 13 ans s'envole en quelques secondes, on peut dire, dans un accident tout à fait invraisemblable, vous vous posez la question, mais c'est pas normal, il y a quelque chose. Et puis, petit à petit, d'abord, il s'est passé un événement étonnant. Trois jours après, j'ai commencé à écrire mon petit Icare, la biographie d'Arnaud. Je ne l'ai pas écrit pour... J'ai toujours adoré la littérature, mais je n'ai jamais cherché forcément à faire œuvre littéraire, même si, je le répète, je me disais quand je serai à la retraite, je le ferai. Non, mais j'ai éprouvé le besoin d'écrire. Pas non plus pour faire revivre Arnaud, non. Je savais qu'il était mort, en termes terrestres. Mais j'ai écrit, c'est ça qui est très étonnant, au fil de la plume, alors que je ne pouvais ni manger, ni boire. Enfin, vous savez, perdre un enfant, c'est terrible. Et j'ai écrit, et j'avais comme devant moi, se déroulant hors du temps, toute la vie d'Arnaud comme une sorte de diaporama qui me restituait tout ce qu'il avait été. C'était bizarre. J'ai écrit en deux ou trois mois, c'est tout. Et le livre, c'est là que c'est étonnant, le livre a été publié l'année d'après le départ d'Arnaud. Michel Debray a écrit la préface, sans que je lui ai demandé d'ailleurs. Et ce livre a connu un destin étonnant. Plusieurs journalistes se sont intéressés.
Ce qu'il faut dire, c'est que ce livre n'a rien à voir avec l'expérience que vous
rien
avez
du tout.
Ensuite.
C'était déjà
surprenant.
Oui, c'est déjà surprenant
d'une,
en soi.
D'une, oui. Je dirais d'une simplicité
oui,
maternelle.
Oui, tout à fait. Vraiment, alors, ce livre a eu un destin étonnant. Des mères m'ont écrit un peu partout en me disant « Mais ce que vous exprimez, moi, je le ressens, perdre un enfant. » Mais puis, à travers Arnaud, beaucoup reconnaissaient quelque chose de leur enfant. Et ce livre a été déposé à la Pauvre-Cure. Et là, le premier signe est arrivé, indiscutable. Un cœur s'est incrusté dans la couverture d'un tome de mon petit Icard, voilà. Vous pouvez le faire.
Oui, ça c'est curieux. Alors, on voit effectivement la photo de l'enfant d'Arnaud avec une chemise blanche ou une...
Juno, c'est une ordre de communion, il avait fait sa communion.
Et puis, il y a une espèce d'accident d'impression qui fait apparaître, alors ça n'est pas sur la photo originale, sur un livre.
Sur un.
Et vous l'avez reproduit ensuite.
Voilà.
À la place du cœur, un cœur, c'est un accident d'impression, on voit très bien. C'est un cœur qui est reconnaissable, mais qui n'est pas dessiné par un grand
artiste. Non, non, tous les imprimeurs, tous ceux qui l'ont montré.
Ce n'est pas étonnant. Hein.
Pourquoi ?
Vous savez, moi j'ai un livre de chevet. Est-ce que vous avez entendu parler de Marcel de Jouvenel ?
Bon. Évidemment.
Moi j'ai repassé à l'ordinateur et je me suis fait, il y a 15 ans, une synthèse de tous les messages de Roland.
Oui.
Et je peux vous dire que, entre autres choses, j'ai épuisé beaucoup de choses.
Ah, ben voilà.
Et que je l'ai toujours rejeté de moi. Et j'ai connu Jeanne Moranier qui a perdu son fils aussi également. Voilà. Ne croyez pas, madame, que je sois loin de vous, peut-être. Mais le problème, et je connais, et ça, le cœur, bon, ben, c'est lui qui vous l'a envoyé à travers, bon, une manifestation. Vous savez, si je vous dis, c'est pas une résurrection de la chair, il est dans un autre plan, votre
fils. Bien sûr, mais je le sais, tout ça.
Mais il est toujours là. Mais
attendez, je vais continuer.
Oui, mais
donc, ça, c'était le premier signe. Qui était un signe quand même étonnant. Ensuite, un mois après le départ d'Arnaud, mon mari a entendu « Fais une lettre à ma mamoune ». Alors, et il a fait son premier message, qui était un message que mon mari ne pouvait pas avoir inventé, puisque le mot mamoune, il n'aurait jamais eu l'idée d'employer ce mot-là. Et en plus, ce premier message contenait quelque chose que moi, je ne pouvais pas savoir, un cadeau qu'il voulait me faire, etc. C'était le début. Je n'ai pas eu une seconde de doute. J'ai bien pensé que c'était Arnaud qui nous envoyait ça. Mais entre nous, la survivance, toutes les civilisations dans toutes les latitudes croient en la survivance. Ça n'a rien d'extraordinaire, la survivance. Donc Arnaud envoie des messages n'était pas en soi très, très surprenant. Moi, ça ne m'a pas paru surprenant. Mais c'est la suite qui est devenue plus surprenante. C'est que les messages ont continué de plus en plus beaux. De plus en plus christique au sens issu des sphères où l'on reconnaît Christ, fils de Dieu. Et c'était, petit à petit, ça devenait quelque chose qui ne pouvait pas être inventé par un cerveau humain. C'était trop transcendant, trop magnifique, trop beau, un être humain, un cerveau humain, avec un vocabulaire qui embrassait pratiquement, et là je suis linguiste, donc je pouvais en juger, qui embrassait, mais c'était pas moi qui les recevais, c'était mon mari, donc on pouvait pas croire que c'était moi. Qui embrassait le vocabulaire, un vocabulaire pratiquement depuis les débuts quasiment de la langue française, hein, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, défense et illustration de la langue française. Depuis cette époque-là, il y avait vraiment un spectre linguistique incroyable. Et puis alors, des aperçus sur la Bible, parce que c'était toujours le renvoi à la Bible, des aperçus sur la Bible qui, en quelque sorte, l'éclairaient. Il n'y avait pas de révélation nouvelle, attention, c'est pas une révélation. C'est une révélation, comme le dit le Père Magny, de la révélation. C'était magnifique. Alors, que faire face à ça ? Moi, j'avais commencé à lire le livre du Père Brune, où il parle de Roland de Jouvenel. Justement, je me suis dit, mais c'est de la même tonalité que Roland de Jouvenel. Ce n'est tout même pas possible que ça nous arrive à nous, être les parents d'un messager. C'était une... Ça paraissait difficile à vivre et on n'avait pas du tout envie du tout de vivre ça. Mais que faire ? Alors j'ai commencé à taper les messages avec une machine à écrire. Puis je voyais bien quand même qu'il y avait une tonalité qui était magnifique. Et puis comme j'avais grâce à mon petit Icare, j'étais rentrée en relation avec beaucoup de personnes qui avaient perdu un enfant, ou de personnes en recherche, en panne d'espérance, parce qu'il y a de tout où MDST est là. J'ai donc pensé qu'il fallait faire le discernement. Alors on est allé voir le père Becquet, qui avait été le conseiller spirituel de Marcel de Journel. Il n'a pas hésité une seconde. Il a dit, c'est un nouveau messager comme Roland de Journel, il prend la suite. Il y avait eu Pierre Monnier, Paquis, Roland de Journel et Arnaud. Vous n'avez pas le droit, gardez ça pour vous. J'écrirai la préface. Ensuite, on l'a proposé à Jean Prieur. Même chose. Il a dit, c'est une nouvelle chaîne. Un nouveau messager se glisse dans la chaîne christique. Vous n'avez pas le droit. Bon. Alors, ça a été le premier tome. Nous avons publié le premier tome, toujours aux éditions La Nord. Ah oui, j'oublie de dire que le père Brune a dit, a écrit la quatrième de couverture de ce tome 1, il a dit, je ferai des conférences. Il faut les faire connaître. Vous n'avez pas le droit de garder ça pour vous. Il faut les faire connaître. Nous avons commencé avec le père Brune les conférences. Puis il y a eu le tome 2. Puis il y a eu le tome 3. Puis il y a eu le tome 4. Mais au bout de deux tomes, je me suis dit, on ne peut pas. Il faut quand même diffuser ça. Les conférences, ça n'était pas suffisant. Et puis il fallait diffuser ça auprès de tous les gens qui souffraient. Parce qu'il y avait des enfants qui meurent, si vous saviez tout ce qu'il y a. Il y en a un nombre considérable. Des gens qui perdent des êtres chers. Il y en a beaucoup. La mort, elle est tout le temps présente. Elle est vraiment, et peut-être plus que jamais. Quand on regarde les informations, on se rend compte qu'il y a des malheureux partout, partout. Or, on en parle très peu, c'est un sujet tabou. Alors, je vais me boire.
J'aurais pu vous servir, d'ailleurs.
Parce que l'émotion de parler de tout ça me donne faim. Alors, donc, j'ai décidé qu'il fallait faire un mouvement d'espérance, Stella. Stella, cause de la Vierge. Stella Maris. Et espérance, mouvement, parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose de figé. Je voulais que tous ceux qui en avaient besoin puissent venir, ce qui est bien le cas. Je ne pouvais pas dire, moi, autre chose que c'est en Christ que je puise mon espérance, en la Vierge. Mais je voulais que ceux qui n'étaient même pas croyants viennent. Et c'est vrai qu'ils venaient. Ils sont venus. Et ils ont été convertis. Tout simplement.
Pardon, mais le contenu général du message, le sens général du message...
C'est le renvoi à la parole.
C'est ça. Mais ce que j'avais compris, c'est que après la mort, on peut encore progresser.
Absolument.
C'est assez contraire à l'enseignement traditionnel de l'Église.
À l'enseignement traditionnel actuel, depuis quasiment 80 ans, ça va de pair avec un certain rationalisme. Mais c'est en soi, c'est pas pensable. Ça voudrait dire qu'au ciel, il y aurait le Christ, ressuscité bien entendu, il y aurait les saints estampillés, si je puis dire, et tous les autres dormiraient. Et c'est contraire à tout ce que ressentent ceux qui ont perdu un être cher. Le nombre de gens qui m'ont dit, mais moi, je lui parle, mais j'ai des signes de lui, mais je sais qu'il est vivant, et j'en suis sûre. Ça, finalement, on ne le dit plus. Or, les messagers christiques, Pierre, Roland, Paquis, Arnaud, sont là pour dire, mais nous sommes vivants, nous ressuscitons tous. Pas la résurrection, ce que les orthodoxes appellent la petite résurrection, ce qu'Arnaud appelle le relevage. On sera tous vivants. De l'autre côté. Mais bien sûr, nous passons de l'autre côté avec notre bagage terrestre. La résurrection n'est pas... Enfin, le relevage, si vous voulez, n'est pas le même tout à fait pour tous. Mais celui d'un enfant est très rapide, parce qu'un enfant est pur. Parce qu'un enfant ne s'est pas fait une idée sur l'au-delà. Il n'a aucune idée, lui. Il s'adapte immédiatement à cet univers hors des limites spatio-temporelles.
Une question qui peut paraître incongrue. À travers l'expérience que vous avez maintenant de la lecture, parce que vous avez été la première lectrice de ces textes qui vous sont envoyés, toujours par l'intermédiaire de votre mari.
Un prêtre en a reçu aussi, notamment me demandant d'écrire ce livre. C'est un prêtre qui a reçu les livres. Dealer Mamoun, il faut écrire cette aventure. Voilà. Parce que c'est une aventure, comment dire, c'est un témoignage incarné dans une famille, mais aussi, nous sommes très nombreux au MDST là, et il y a beaucoup de parents qui bien sûr, ont des signes de vie de leur enfant, beaucoup de personnes qui ont perdu un être cher. Donc, c'est une vaste expérience, c'est un témoignage qui est sur Terre, et en même temps qui est relié au ciel par la communion des saints, parce qu'en fin de compte c'est une histoire de communion des saints, tout simplement.
Alors à travers la connaissance que vous avez de ces textes, est-ce que vous avez un commentaire ou une réaction aux déclarations récentes de l'Église, aux positions récentes de l'Église concernant le sort des enfants non baptisés.
Alors ça, je suis très surprise. Parce que, si j'ai bien compris, toute cette littérature des messages christiques, que ce soit Pierre Roland, Dieu est amour. Dieu est amour. Ça, c'est ce que Arnaud répète à longueur de message. Donc, Dieu amour ne peut pas condamner des innocents, c'est pas possible. Ça, alors là, tout ce qui est contre l'amour, contre un Dieu d'amour qui aime tout le monde et ne rejette personne, ça ne peut pas être, à mon avis, ça n'est pas normal, si je puis dire. Et là,
Est-ce que ça revient à dire alors, ça,
mais l'Église des hommes, c'est l'Église des hommes, avec ses limites.
Est-ce que ça revient à éliminer l'hypothèse de l'enfer?
Ah, je ne le crois pas. Ça, je ne le crois pas. Si l'on refuse Dieu, ça, le désamour.
Est-ce qu'Arnaud en parle?
Oui, mais il n'en parle. Ça n'est pas le même vocabulaire, tout à fait, que sur Terre. Sur Terre, nous avons un cerveau limité, à présent par celle et ma connaissance, dit Saint Paul lui-même. Et vous parliez tout à l'heure de Thomas d'Aquin, mais vous savez certainement que Thomas d'Aquin a fait donc la somme théologique, mais qu'il a eu une expérience mystique peu de temps avant de mourir, et qu'il a dit à son secrétaire, Réginald, brûlez mes livres,
ce n'est que de la... Écrit, c'est de la... Vous retrouverez dans mon
micro, voilà. Le micro.
Oui. Ah oui, non,
voilà. Ça veut dire que sur Terre, nous avons un langage. Le langage des messages christiques est un langage quand même. C'est un langage mystique, c'est un petit peu spécial, justement. C'est autre chose. Nous avons des mots qui sont des mots sans ailes, si je puis dire. Ils sont un peu terre à terre, même si les plus grands théologiens, peut-être même que le savoir sans l'amour, c'est peut-être pas forcément le meilleur chemin pour comprendre le ciel. Ces enfants qui sont partis, ces enfants de lumière, nous avons tous à devenir des enfants de lumière, mais eux, ils le sont déjà. Et je voudrais dire une chose, à rajouter quelque chose. Vous me parlez du statisme des âmes, mais pourtant l'Église n'a pas toujours été comme ça. Pensez à Dominique Savieux. Dans mon livre, je raconte l'expérience de Dominique Savieux qui est apparu à Don Bosco. Oui. Il a décrit son corps spirituel, dont vous parlez. Il s'est décrit. C'est exactement ce que dit Arnaud. Mais ça n'a choqué personne, puisque Dominique Savieux a été canonisé. Ça veut dire que à cette époque-là, le statisme des âmes c'était pas du tout une conception que l'on avait. C'était au ciel, on évolue. D'ailleurs, c'est le cardinal Danielou qui connaissait bien les messages de Roland, qui les aimait beaucoup. Il disait à propos de ces messages de Roland, on pourrait dire d'Arnaud tout aussi bien, c'est de la pédagogie angélique.
Oui. C'est d'ailleurs, de la pédagogie angélique. Vous parlez de messager, mais un ange, c'est un messager.
Voilà.
C'est
Arnaud dit d'ailleurs au début, mes messages sont contrôlés par des anges. Et nous-mêmes, nous avons eu, sans doute pour nous donner de la force pour faire ce qu'on avait à faire, la visite d'un ange.
Est-ce qu'il explique la nécessité de ces intermédiaires?
Oui. Il dit, nous sommes les pontonniers du ciel. Nous sommes les pontonniers du ciel. Tous les enfants de lumière, parce qu'il n'est pas tout seul, c'est une communauté. Mais lui, il a cette charge d'être celui qui est aimé. Donc alors, il explique comment ça se passe. C'est tout expliqué dans mon livre. Mm-hmm. Je vous renvoie mon livre. Et il explique que finalement, c'est préparé au ciel, c'est vérifié, c'est envoyé tout prêt. Mais on ne sait jamais de quoi il va parler. Mais ce n'est pas quelque chose qui est élaboré par un cerveau humain. C'est la connaissance. Et c'est issu, bien sûr, du Christ.
Quel fruit avez-vous eu jusqu'à présent de ces...
Alors, il y a eu toutes les oppositions possibles et imaginables. Alors là, ça a été terrible. Je dois dire que nous avons traversé, il a fallu un amour du Christ, un amour de Dieu, un amour tout court, pour continuer. Mais... il est arrivé un moment où nous avons été, je veux dire, aidés par beaucoup, notamment des prêtres magnifiques. Mais effectivement, l'air du temps n'est pas l'extraordinaire chrétien. L'air du temps n'est pas justement à la connaissance de l'au-delà. On essaie de tout cadenasser. Il ne faut pas chercher à savoir, etc. Ce qui n'était pas le cas autrefois, d'ailleurs, de moi. Alors nous avons finalement continué la route. Et puis, évidemment, maintenant... Comme dit Gamaliel dans les Actes des Apôtres, cette entreprise vient des hommes, elle se défera d'elle-même. Oui. Si elle vient de Dieu, elle progressera. Rien ne pourra la détruire. Rien n'a pu détruire le MDE Stella. Nous avons progressé au point que je suis surmenée constamment, que j'y ai laissé ma santé, mais c'est pas grave. Mais j'ai rapatrié vers Dieu, vers le Dieu d'amour, un nombre de gens incroyables, dont beaucoup, beaucoup de jeunes. Ce Dieu d'amour qui accepte tout le monde, qui est un champion de l'amour. ce Dieu d'amour, eh bien, les gens en ont besoin. Ils en ont une soif inextinguible. Et donc viennent au MDE-STELA, pas seulement des gens qui ont perdu un enfant ou même un être cher, des assoiffés d'un Dieu d'amour. Il y en a énormément, énormément. C'est une action qui rayonne de plus en plus.
Et donc, à partir de cette expérience, de cette tragédie personnelle, des livres qui en sont sortis, alors il existe aujourd'hui une association.
Le mouvement d'Espérance Stella, dont je suis, que j'ai fondé.
Quel est son objet ?
Son objet est de faire connaître que la mort n'existe pas, puisque Christ l'a vaincu, que l'amour est plus fort que la mort. Je fais des conférences, j'en fais une le 2, j'en ai fait une à Paris, j'en fais une le 2 juin à Tours, sur le thème « L'amour est plus fort que la mort », et je cite bien sûr des passages, sur des messages d'Arnaud, et puis bien sûr, j'essaie de faire connaître le livre d'Ilor Mamoun, parce que les gens à l'heure actuelle vont beaucoup plus facilement vers la connaissance de tout ce qui se passe après la mort par un témoignage. Nous sommes tous des gens, vous savez, il y a des psychiatres, il y a des médecins, il y a des prêtres, il y a beaucoup de religieuses, il y a des gens très instruits, il y a des gens, je dirais pas ordinaires parce que je n'aime pas ce mot-là, mais il y a des gens moins instruits, il y a des gens jeunes, il y a de tout. C'est un creuset et nous aimons et nous vivons. C'est un petit peu comme les premiers chrétiens, vous voyez comme ils s'aiment, c'est formidable. Comme association.
Et quelle est la position ? Est-ce qu'il y a une position officielle de l'Église par rapport à votre expérience ?
Il n'y en a pas. Il y en a pas et c'est heureux. Il faut que ça soit ouvert à tous. C'est heureux, mais nous n'avons pas. Nous avons des prêtres qui sont avec nous. Mais je le répète, j'accueille tout le monde.
Mais quand vous dites j'accueille tout le monde, vous, pas personnellement si on veut, mais l'association serait quand même plutôt.
Elle est chrétienne.
Elle est chrétienne, c'est-à-dire chrétienne catholique, chrétienne protestante, chrétienne orthodoxe, chrétienne évangéliste, baptiste.
Chrétienne, je ne cherche pas à savoir. Il y a beaucoup de catholiques chrétiens, mais enfin.
Oui.
Mais enfin, il y a aussi des orthodoxes. Enfin, il y a plus de catholiques que d'autres. Oui. Mais parce que, si vous voulez, malgré tout, c'est une grâce qui a été accordée. Pierre Mounier était protestant. Pierre, Paquis, Roland, Arnaud. Mais ce sont les mêmes. Dogme, si je peux embellir, encore j'aime pas trop le mot dogme, ça dogmatique, mais ce sont les mêmes clés pour croire.
Mais Arnaud parle de ça dans son.
Ah oui, bah Arnaud défend tous les dogmes de la foi catholique et chrétienne. À tous. Ça, alors là, Christ, fils de Dieu, Marie joue un rôle extraordinaire. Mais je vais vous lire ça parce que je trouve ça. À propos de Marie, je pourrais vous en lire bien d'autres, mais bon, je suis bien obligée de choisir. Je sais pas si je vais le trouver, Marie. Il dit, quand il est parti, et il dit que les enfants qui meurent, Marie, je voudrais bien vous lire le passage sur Marie. Nous tout petits, dit-il, souvenez-vous par exemple de Marie cheminant sur les routes d'Israël pour rejoindre Élisabeth, Marie pleine de Dieu. Songez-y avec tendresse, amour, confiance. Priez-la alors, elle seule. Demandez-lui ce que vous voulez, hors les vanités du monde matériel. Des forces et plus de foi. Demandez-lui de vous aider à aimer les autres. Et vous, parents éprouvés par la perte d'un être cher, demandez-lui de vous aider à porter votre chagrin. Dites-moi, quel être, sinon Marie, la mère, notre mère, peut mieux vous comprendre et vous aider. Un enfant qui part de la terre, c'est un enfant qui l'a rejoint. Mais les parents qui restent, noyés dans la plus profonde peine, sont aussi ses enfants. Les demandes dans la prière achèvent la liaison établie avec le royaume de Dieu. Une montée progressive s'est faite depuis le commencement de la prière. Vous êtes alors en spirituel. Vous nous rejoignez, nous tout petits, dans les plis du manteau de Marie.
Super. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à cette scène de la Passion, le film de Mel Gibson, qui est une des plus jolies scènes du film,
oui. Quand
il fabrique la table et que Marie lui apporte une écuelle pour se laver les mains, et qu'il lui envoie de l'eau au visage en jouant comme ça. Oui. C'est absolument ravissant. Et là, on voit la réalité de l'amour humain entre ces personnes.
C'est vrai, c'est vrai.
Merci, Madame Gourvenec. On vous voit dimanche. Je perds ma voix. On vous voit dimanche, donc, à la réunion de la journée du livre de Radio Courtoisie. On verra aussi Bertrand Quint. Je crois qu'il y a un malentendu de la part de beaucoup d'auditeurs qui croient que Bertrand est un ennemi de la foi. C'est pas du tout ça. Mais il s'en expliquera avec ceux que ça intéresse.
Dans la revue de l'au-delà, parce que il y a... Ce que je dis n'a aucune importance, je répète, je ne suis que porte-parole, pardon pour les auditeurs. Hein. C'était pas fait. Étienne Drapeau vous a publié souvent des extraits de vos livres.
Oui, mais là où je suis pas. Oui, il a raison, certainement, mais là où je ne suis pas trop d'accord avec les messages de Georges Moragnier, c'est qu'il croit à la réincarnation, pas du tout.
Non, moi je
c'est où la résurrection, la réincarnation,
aussi, non, moi. Moi je connais les voix dans le même, mais je suis d'accord avec ceux de Roland Dubounel. Pierre Monnier aussi, j'ai lu Pierre Monnier et tout, oui. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père,
oui,
il a
ça
dit.
Ça dépend de ce qu'on entend aussi.
Mais bien entendu, ça dépend de ce qu'on entend. Bien entendu.
Je suis désolé, mais nous sommes obligés de terminer cette émission. Donc nous nous retrouvons dimanche tous. Alors, vous, vos livres sont chez Lanor.
Oui.
Vous, Bertrand Aquin, votre livre est édité par
Liber Mirabilis.
Liber Mirabilis, c'est ça. Jean-Claude Chevrier n'a pas de livre à vendre en ce moment.
Mais non, pardon. Je suis le titulaire du Centre Christos, Centre pour l'Histoire, la Recherche, l'Illustration, la Sauvegarde des Traditions de l'Orient Spirituel. C'est, je dirais, je suis pas Voltaire, mais je dirais c'est mon meilleur ouvrage, car c'est un centre de documentation.
À vous,
j'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage.
Excusez-moi, samedi 12 mai à 14h30, place Saint-Michel, SOS Tout Petit organise une manifestation. Samedi prochain 12 mai de 16h à 18h30, Jean de Vigry dédicacera « Fille des Lumières, femmes et sociétés d'esprit à Paris au XVIIIe siècle » à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e.
Est-ce que je peux
le centre, non, non. Le centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, annonce la récollection le samedi 12 mai, le 10h à 18h, sur le thème « Le Saint-Esprit, ce grand méconnu, par les abbés Laguéry et Prieur. Pour plus de renseignements, 01 40 26 41 78. Pardon à la licorne bleue, mais j'ai eu son message pour le 7 avril seulement aujourd'hui.
Voilà, voilà. Vous vouliez dire
qu'un mot... Je voulais simplement dire quelque chose à propos de ce qu'a dansé la madame, là, c'est qu'il y a dans le tome 2 un message extraordinaire sur les pouponnières célestes, ce que deviennent les enfants avortés.
Ah.
C'est très intéressant.
Très bien. Bon, les auditeurs pourront vous rencontrer dimanche et ils en apprendront plus en lisant vos livres. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. Merci, Marquis, d'être venu. Merci, Victoria, de nous avoir supportés.
C'est vous qui m'avez supporté.
À dimanche. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs.